Jase en 2-1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bon midi. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Ça sent le printemps aujourd'hui. Je vois la météo. Je me dis, ouais, on s'en va vers là, là, les belles températures. C'est 9 degrés alternant soleil et nuages pour aujourd'hui. Demain, même principe. Samedi, 11 degrés. Dimanche, 13. Et là, à plus long terme, on frapperait 17 lundi. Donc, Pascal CV, on est là dans belle saison. C'est parti. On va déjà être là au mois de mai dans une semaine. Alors, ça commence à paraître. On est très, 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 très heureux. Aujourd'hui, à l'émission, on va entre autres parler de nettoyage de rue et de nid de poule avec Mathias Turcotte qui revient d'un point de presse de la Ville de Québec. 2 semaines de retard sur le nettoyage de rue. Va falloir s'activer. Les touristes sont en ville. Faut que la ville soit belle et propre. Puis pour nos jeunes aussi qui jouent à l'extérieur dans la rue. Je vais aussi vous présenter un petit dossier spécial sur les blessures aux genoux de nos jeunes. On se pète, c'est le cas de le dire, le ligament croisé intérieur. Pourquoi? J'ai parlé avec Edith Castonguay de PCN Physio. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à l'intérieur du pourquoi. Puis j'ai des bonnes pistes de solutions, selon moi, à vous proposer. On aura Rémi Villemur, évidemment le caucus avec Emmanuel Latraverse. Et on aura aussi Gabriel Giguère qui va venir nous parler de ses nids de poule sur les autoroutes. Oh my God, qu'on en a! On a énormément de réclamations. Mais je dirais que c'est le chemin du pèlerin si vous voulez réclamer au gouvernement. On va parler de ça avec Gabriel Giguère. Puis on termine l'émission en sport avec Alex Laramin parce que c'est des séries au hockey. Ce soir, repêchage dans la NFL. Pascal Cévé, il y a de la circulation parce qu'il y a plein de travaux.
Oui, accident dans la bordure, là, l'embranchement du Plessineur qui cause un ralentissement sur le pont qui est assez important. C'est un peu plus complexe, effectivement, dans la circulation. On sait, travaux préparatoires du tramway qui a pris d'assaut bien des endroits. Il faut aussi parler du pont Pierre-Laporte-Sud, milieu tablier, voie de gauche qui est bloquée. Il y a une panne, remorquage en cours.
Je vous le répète pour nous joindre, 418-971-1021. N'hésitez pas à donner votre opinion. Vous pouvez nous écouter via le blvd.fm. C'est notre web radio. Les meilleurs moments s'y retrouvent. Et également, le blvd-1021, c'est notre application. Téléchargez-le si ce n'est pas fait.
Oui, merci. Grâce à vous, souvent, on voit des accidents avant même que les caméras ou le MTQ nous en assurent ou Québec 511. Il faut juste aussi que la fermeture des 2 voies sur 3 sur le pont Pierre-Laporte, ça va débuter maintenant juste à 22h en raison de la congestion qui est arrivée mardi soir. Plein d'automobilistes qui se sont retrouvés coincés dans un grand embouteillage. Probablement, vu la fin du match des Canadiens, situation qui a été aggravée par la fermeture qui était simultanée avec le pont de Québec. Puis habituellement, là, c'était prévu entre 21h et 5h30. Mais là, on s'est dit, ouais, non, on va juste réajuster un peu nos façons de faire. Puis les travaux vont se poursuivre de nuit jusqu'au 8 mai, je vous rappelle.
Exactement. Dans l'actualité, avant qu'on parle avec Emmanuel Latraverse, qu'est-ce qu'on suit, Pascal CV?
Mais ça, c'en est une grosse nouvelle. Mathias est allé aussi à un point de presse et il y a des questions qui ont été posées à ce sujet, mais un nombre de réclamations au ministre des Transports du Québec pour des dommages liés à des nids de poules qui a atteint un nouveau sommet au Québec. Et Mathias, c'est un peu une portion Québec, là, la ville, dans tout ça. Mais le Journal de Québec a rapporté que 2,2 millions de dollars ont été réclamés au ministère depuis le début de l'année 2025 seulement. Par contre, c'est 5 % des demandeurs qui ont été indemnisés quand tu disais que c'était un chemin de croix. C'est le cas de le dire. Il faut des preuves, par exemple une photo. Il faut aussi lancer dans des démarches administratives, demande d'accès à l'information pour obtenir des preuves que les autorités ont été négligentes, etc., etc., etc. Depuis le 1er janvier, on parle de 280 réclamations. Je t'en parlais la semaine passée, après notre party d'employés. Jeudi dernier, une de nos collègues qui va sur le pont Pierre-Laporte, qui arrive pour prendre un embranchement, nid de poule, ils étaient 8. Arrêter pour des crevaisons sur les véhicules.
Exactement. Donc, non seulement c'est difficile de faire une réclamation au gouvernement, vous avez tous les détails dans l'entrevue qu'on a fait avec Nicolas Ryan du CA Québec ce matin dans Marceau le matin sur blvd.fm, mais on va parler aussi avec Gabriel Giguère en fin d'émission de ces coûts par automobilistes qui sont le double au Québec que pour le reste du Canada, mais pourtant on a ces routes pitoyables.
À mentionner qu'il y a eu une violente agression à Sept-Îles, c'est 4 motards criminalisés qui ont été arrêtés. Pourquoi on prend le temps d'en parler? C'est que ça a à voir avec cette incroyable implantation du crime organisé avec les stupéfiants. Là, on ne parle pas juste des Hells Angels, même ces quatre personnes liées aux Hells Angels qui ont été arrêtées près de 8 mois après cette agression-là d'un homme survenu dans un bar de cette île. On parlait souvent de la Côte-Nord comme étant maintenant un épicentre de ce qui se passe. Et là, ça confirme un peu plus. Au moins, il y a eu des arrestations. Donc, c'est des gens âgés de 32 ans pour deux, 38 ans pour un et 45 ans pour l'autre. Ils étaient tous recherchés en vertu d'un mandat d'arrestation qui avait été émis à la fin mars. Ils ont comparu le jour même. Retour en présentiel 3 jours semaine. Les fonctionnaires en réunion virtuelle au bureau, ça dit tout.
Ouais.
Le titre du Journal de Québec dit absolument tout. On parlera effectivement de la santé des jeunes sur un autre aspect un peu plus tard, Jeff, mais juste mentionner que Donald Trump a ordonné dans les dernières minutes de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz.
Ça continue justement. Il n'y a pas de voie de passage possible à l'heure actuelle entre les États-Unis et l'Iran. Ça continue tout simplement à s'enfoncer, ce conflit-là, au grand dam de tout le monde sur la planète, parce que le coût de l'essence n'a pas de sens à la pompe à l'heure actuelle.
Le caucus, ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus dans l'émission d'Angeaze sur Boulevard 101, c'est du lundi au jeudi. On va rejoindre Emmanuel Latraverse à l'instant même. Emmanuel, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Est-ce que tu vas mieux que Gilles Bélanger qui est fâché contre son ancien parti politique?
J'ai appris que dans la vie, il ne s'agit pas de mener une bataille ou d'avoir raison, il s'agit de convaincre ses collègues et de le faire avec tact. Alors, malheureusement, quand on joue l'éléphant dans le magasin de porcelaine, là, ben, c'est ça que ça donne.
T'es-tu en train de me dire que le 10 avril dernier, on va écouter l'extrait, Gilles Bélanger n'avait pas usé de tac lorsqu'il avait mentionné ceci en scrum improvisé devant les journalistes?
Sonia et moi, on n'est pas dans une position confortable pour dire go pour le 9 mai. Aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que la semaine prochaine, les éléments vont avoir été répondus, les lumières qui étaient jaunes vont devenir vertes ou les lumières, il n'y a pas beaucoup de lumières rouges. La gestion du changement est souvent sous-estimée dans des mandats de transformation numérique. On l'a vu à la SAC, mais c'est souvent au niveau de la formation des usagers, il y a des enjeux, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un bris de service.
Depuis cette sortie-là, c'est véritablement un feu roulant. Il y a plein de gens du monde de la santé qui ont sorti pour dire « ça marche pas cette affaire-là ». Il y en a d'autres des formateurs qui ont dit « ça marche ». Là, aujourd'hui, Nicolas Lachance nous apprend dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, qu'il y aurait 850 chirurgies reportées en raison, justement, de DSN, donc de la santé numérique. T'en penses quoi de tout ce fouillis-là, là, présentement?
Ce que j'en pense, c'est que premièrement, quand tu es un ministre, tu ne parles pas au nom de tes collègues sans être certain qu'ils sont à l'aise que tu parles en son nom.
En effet.
Oui, je pense à sonner la fin du règne de Gilles Bélanger. De deux, tout est mélangé hein, là-dedans. Là. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux, puis on va essayer de les décortiquer ensemble. Le fait qu'il y ait des chirurgies d'annulées, c'est malheureux, c'est un casse-tête. Mais à un moment donné, si tu veux donner la marge de manœuvre aux équipes pour apprivoiser le nouveau système, il faut que tu réduises la cadence. Puis s'ils ne réduisaient pas la cadence, on aurait une conversation sur le fait que les équipes ont peur parce qu'on ne réduit pas la cadence puis ils ne seront pas capables de tout livrer. Fait qu'à un moment donné, là, tu ne peux pas tout faire. T'sais? Je veux dire, c'est un peu le problème de sa clique, là, c'est qu'on a fermé la switch, on l'a allumé, puis il fallait que tout marche du premier coup.
Puis ça n'a pas fonctionné. Ces chirurgies-là, c'est quand même dommage parce que c'est les personnes qui sont en attente depuis longtemps, là, on ne se le cachera pas.
C'est des personnes en attente depuis longtemps, mais peu importe le moment où on va mettre en place un nouveau système informatique dans les hôpitaux, il va y avoir des chirurgies d'année.
Non, j'avoue, c'est un...
Mais malheureusement, c'est comme... C'est ça le problème, là. Alors, tu peux pas, si sous prétexte qu'on peut pas annuler des chirurgies, on change pas les systèmes informatiques, on va encore être au fax dans 2050, là.
En effet, c'est un bon point que t'amènes.
Numéro 2, et donc ça, c'est un problème. L'autre, c'est la question de la souveraineté des données numériques. Okay? Je comprends l'inquiétude, puis je crois qu'elle est légitime, l'inquiétude exprimée par M. Bélanger. Okay? Parce que tout ça, c'est à cause du fameux Cloud Act américain, hein, qui fait que n'importe quelle donnée stockée dans les serveurs d'une entreprise américaine, peu importe où sont les données, les États-Unis disent que l'administration peut y avoir accès. Okay?
Donc là, c'est la protection de nos données personnelles à nous, Québécois.
Nos données personnelles. Alors, en ce moment, on est en train d'essayer de migrer le plus de ces données. Puis ça, le gouvernement a signé un contrat avec une entreprise américaine, là. Donc, c'est où sont les serveurs de Epic. Là, on essaie d'installer les serveurs de Epic ici au Québec, en Ontario, etc. Mais c'est pas clair comme Epic est domicilié aux États-Unis que néanmoins, les données ne seront pas assujetties. Mm-hmm. Alors là, on peut grimper dans les rideaux puis dire « Ah, ben c'est effrayant, nanana. » La réalité, là, puis c'est inquiétant, c'est malheureux, mais tous les pays dans le monde sont confrontés à ce problème-là. OK? Je veux dire, ils sont tellement tous confrontés à ce problème-là, puis ils sont tous tellement en train d'essayer de trouver des solutions que c'est en train de devenir un enjeu dans les négociations commerciales avec les États-Unis, puisque les États-Unis ne veulent pas que leurs géants Microsoft, Google, Amazon soient pénalisés à cause de ce problème de souveraineté des données. Okay? Alors, le débat, il est légitime. Il est hyper compliqué. Est-ce qu'on construit des centres de données ici au Canada qui n'appartiennent qu'à des entreprises canadiennes? Ça fait partie du débat, ça fait partie des efforts du gouvernement. Le gouvernement fédéral, en ce moment, est confronté au même problème avec ses propres données. Alors, oui, il faut en parler, oui, il faut trouver des solutions, mais est-ce qu'on va blâmer le gouvernement parce qu'on est coincé avec ce problème-là?
Ouais,
la réponse, c'est non, tout le monde est dans le même bateau.
Qui est un problème à plus large échelle que seulement au Québec, c'est ce que je comprends. Donc, toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que pour la problématique des données, il faut faire avec, on n'a pas le choix, on est rendu là, puis ça va faire partie de négociations qui vont être au-dessus de notre tête.
Mais je pense qu'il faut faire avec, il ne faut pas faire avec, il faut trouver des solutions.
Mmh.
Et c'est là que l'espèce d'absence de transparence, je pense, de la part du gouvernement, de la part de Santé Québec, contribue à l'espèce de débat puis à l'inquiétude ambiante.
Ben oui, Emmanuel, on a fait un dossier complet là-dessus, Jeff et moi, la semaine passée. Ça faisait une semaine et demie qu'on essayait d'avoir des réponses, de parler à quelqu'un. Il a fallu qu'on passe par un expert en technologie qui avait des contacts, puis un autre journaliste qui a fait en sorte de nous dire « je vis la même affaire ». Et ça augmente les critiques, l'incompréhension. Puis après, tu as les gens du terrain qui en parlent puis qui disent « non, on n'est pas prêts, là ».
À un moment donné, s'il y en a un enjeu, dites-le, expliquez-le, puis donnez-nous votre feuille de route pour le rejoindre. Puis si, selon vos analyses légales, il n'y en a pas d'enjeu, mais expliquez en détail pourquoi il n'y a pas d'enjeu. Mais d'avoir un communiqué de Santé Québec qui dit « Ah non, mais Epic n'est pas soumis à ça », malheureusement, c'est pas clair. Et je pense que c'est ça qui contribue à espèce d'envenimer le climat actuel. Et donc, pour revenir à notre monsieur Bélanger, est-ce qu'il aurait fallu procéder autrement, tu sais? Des fois, prendre une semaine de plus avant de faire une sortie, puis de la faire comme du monde, puis qu'elle aide à bâtir la confiance envers les efforts du gouvernement, c'est mieux que d'y aller en défonçant des portes ouvertes, là, tu sais? Et je pense que c'est ce qu'on voit dans son cas à lui. Surtout pour un gouvernement qui est déjà fragilisé puis qui n'a pas le luxe d'avoir des ministres qui se mettent à faire cavalier seul.
Oui, je conclue ce sujet-là. Est-ce que à l'intérieur de ça, ce qu'on retrouve davantage, c'est une guerre politique, et je m'explique, une guerre entre le fait que le ministre de la cybersécurité et de la transformation numérique, dans les faits, c'est une compétence transversale. Fait qu'il n'y a aucun pouvoir sur Santé Québec. Et là, il a utilisé les médias pour tenter d'avoir un pouvoir.
Mais non seulement il n'y a aucun pouvoir sur Santé Québec, mais il n'a aucun pouvoir sur rien. Et c'est un peu ça aussi le problème dans la façon dont ce ministère-là a été conçu, c'est qu'il ne sert que de consultant conseil, tu comprends-tu?
Ben oui.
Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a décidé, dans le remaniement de Mme Fréchette, de ramener ça au Conseil du Trésor pour que le ministre qui est responsable soit ait aussi une responsabilité légale et décisionnelle sur les contrats dont il est question. Alors, c'est ça. Alors, c'est là qu'on en est. Mais moi, je partage toutes les inquiétudes du milieu à l'égard de ce qui va arriver le 9 mai au matin. Et je te prédis que le 10 mai, avec Antonine, tu vas parler des problèmes qu'il y a eu dans les hôpitaux.
C'est sûr.
Malheureusement, c'est ça la nature de ces changements-là. Puis je pense que le pari de le faire dans deux projets pilotes, un gros hôpital montréalais, une région plus petite où les dynamiques ne sont pas les mêmes, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu les testes, ces systèmes-là, si tu veux les déployer à la grandeur de la province. Tu n'as pas le choix, là.
Bien, tu n'as pas le choix. Puis tu as raison que dans la gestion de projet, la logique suit son cours, c'est-à-dire le faire en projet pilote au lieu de le faire à l'échelle de la province. Fait que d'un, c'est un bon côté. Mais en même temps, quand tu fais un projet pilote, tu sais qu'il ne sera pas parfait au départ. Fait que tu sais que tu vas vivre des problématiques. Tu vas les régler justement pour ne pas les revivre dans d'autres régions.
C'est la nature du truc, tu sais. Alors, c'est sûr que c'est très difficile, je pense, pour les gens qui travaillent dans ces centres hospitaliers-là, parce qu'ils ont été désignés un peu comme les cobayes de l'exercice. Mais il y en aurait eu des cobayes, peu importe quand et comment on aurait procédé,
ouais.
Tu sais.
C'est ça. T'as entièrement raison. C'est clair que là, nos auditeurs réagissent au 418-971-1001, puis je partage leurs préoccupations et surtout, je partage leur empathie envers les gens qui n'auront pas leur chirurgie, parce que ça, c'est des drames humains des fois qui peuvent arriver. T'sais, je donne toujours le même exemple, mais ma mère qui s'est faite opérer à la hanche, elle a attendu 18 mois, mais les 9 derniers mois, elle n'était pas capable de dormir, fait que la santé mentale a pris le bord. Donc,
non,
quelqu'un qui n'aura pas sa chirurgie, pour lui, sa vie personnelle, c'est vraiment, mais vraiment dommageable. Ça, je partage là, cette opinion-là des auditeurs.
Oui, puis il va falloir voir ces 800 personnes-là. Est-ce qu'ils ont leur chirurgie déplacée de 3 semaines?
Mm-hmm.
Ou est déplacée de 6 mois?
Oui, c'est ça, exactement.
Donc, dans la gestion de la liste d'attente, il y a une grosse différence, là, on s'entend.
En effet, tu as entièrement raison là-dessus. Autre test de leadership que tu m'as écrit pour Christine Fréchette tout à l'heure, et tu parles du remaniement des circonscriptions au niveau
pas
du
simple,
Québec.
Hein?
Oui, exactement.
Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible pour que ce ne soit pas politique comme aux États-Unis,
oui.
Où les élus taponnent les frontières des circonscriptions pour s'assurer d'être élus.
Ce qu'on a vu au Texas, là, avec sous l'ère Donald Trump.
Au Canada, à chaque 10 ans, c'est une commission indépendante qui refait la carte pour s'assurer que les circonscriptions aient à peu près la proportion équivalente de population, plus ou moins 25 %. OK? Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'une circonscription ait 1000 électeurs à un endroit, puis 50 000 à l'autre. Parce que ça veut dire que le poids des électeurs, où il y en a juste 1000, chaque vote compte plus. T'sais. Le problème, c'est qu'on est une région, le Québec, où il y a des zones où il y a d'immenses augmentations de population, les banlieues, et des zones qui se dépeuplent. Et donc, le fruit de tout ça, c'est qu'on a décidé d'abolir la circonscription de Gaspésie,
mm-hmm.
de la transformer en une immense circonscription au bout là, de la pointe du bas du fleuve et du Gaspésie. Et ben ça, ça fait une circonscription de quasiment 500 km², ça n'a aucun sens, mais il faut mettre en place deux autres circonscriptions, une dans le centre du Québec puis une en Anneau-Terre. Le gouvernement a commencé par passer un projet de loi en disant « On oublie ça, on ne redécoute pas la carte pour les prochaines élections, merci, bonsoir. » Les élus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les élus des Laurentides sont allés en cours.
Ben oui, ils ont dit, hey, attends une minute, là.
On leur a donné raison.
C'est clair.
Alors là, que fait Mme Fréchette? C'est très difficile parce que si tu respectes le jugement de la Cour suprême, tu prives la Gaspésie d'un élu.
Oui.
C'est pas trop fort pour première ministre qui dit qu'elle sera la première ministre des régions.
En effet.
Mais au-delà de ça, c'est qu'à un moment donné, là, c'est la Gaspésie qui va perdre la représentation. La prochaine fois, ça va être la Côte-Nord. Après ça va être l'Abitibi. Donc, il y a un problème de fond qu'il faut résoudre.
Oui, puis corrige-moi si je me trompe, mais dans un 500 km carrés pour une circonscription, il peut y avoir deux réalités complètement différentes à l'intérieur même de la circonscription. Ben non, mais c'est... Fait que c'est pas évident, ça,
c'est déjà des longues distances se rendre à Québec.
Exactement.
Partir d'un bout de la circonscription, à Québec, c'est 9 heures de route, puis traverser la circonscription, c'est 4 heures, 5 heures de route.
Non, non, ça n'a pas de sens.
Ça n'a aucun sens. Alors, quelle solution elle va mettre en place? Invoquer la clause dérogatoire? Passer un nouveau projet de loi avec une clause dérogatoire pour les prochaines élections seulement, mais là, il va se mettre à dos les électeurs des Laurentides et du Centre du Québec.
Ben oui.
Alors là, tout le monde va être mécontent. Est-ce qu'on ajoute un siège à l'Assemblée nationale pour donner un statut protégé à la Gaspésie? Mais là, on va ajouter des sièges pendant combien de temps? On va se finir avec 200 députés à un moment donné à l'Assemblée nationale. Alors, c'est très complexe comme solution à apporter à ça. Je pense que la façon dont son gouvernement va gérer ça est vraiment un test de sa... Tu sais, elle qui prétend être une élue, première ministre, qui réfléchit, qui cherche des compromis, des voies de passage. Est-ce qu'elle est capable de faire mieux que le gouvernement Legault? Je pense que c'est le test qui s'impose. Elle a déjà annoncé que M. Roberge va présenter un nouveau projet de loi.
Oui, donc ça va être à suivre. Mais chose certaine, c'est moi qui se trompe ou est quasiment dans une situation perdant-perdant? À l'effet que si elle écoutait la Cour suprême, bien, elle est perdante versus les régions. Mais là, si elle fait son projet de loi, bien, elle perd quand même.
Les grands négociateurs sont capables de trouver des voies de passage. C'est
t'as raison.
C'est le fil dans le chat d'une aiguille.
T'as raison. On va voir sa capacité à négocier.
C'est ça, sa capacité à trouver des solutions créatives, de sortir de la boîte, de résoudre un dilemme insoluble. Tout est là.
Tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas être premier ministre. Je n'ai pas la solution encore à ça.
Mais ils ont des tonnes de monde. On sait la job dans la vie de penser à ça. Là, on ose croire qu'ils ont des solutions à présenter à la première ministre et au ministre Roberge.
En effet. Hey, parlant de grands négociateurs, Mark Wiseman, l'ambassadeur du Canada à Washington, qui a été placé là par Mark Carney pour sa capacité à négocier et ses liens étroits avec le Parti républicain aux États-Unis. Son bureau a fait une petite gaffe, une invitation pour un petit party only in English.
Oui, puis le Bloc québécois est très habile de mettre ça dans l'espace public le jour même où M. Wiseman est attendu en comité parlementaire.
Exactement.
Il sera attendu de pied ferme, il faut le dire. Hein?
Oui.
Parce qu'il faut rappeler que Mark Wiseman n'est pas un fervent francophile et a été dans le passé un farouche opposant à la gestion de l'offre.
Mais voilà.
Il est un des parrains de l'initiative du siècle, la brillante idée selon laquelle on a augmenté la population du Canada jusqu'à 100 millions en ouvrant les portes de l'immigration.
Oui. Puis ça créera pas du tout de crise sociale, de crise du logement, etc.
Non, là, alors, c'est une ça super va être beau idée, de là. Voir essayer de réconcilier ses positions passées avec son mandat actuel, parce que M. Carney s'est encore fait questionner là-dessus, puis d'écouter, M. Wiseman est un diplomate, ce n'est pas lui qui décide. Il va mettre en œuvre.
Si tu permets, on va écouter justement l'extrait de Mark Carney, puis il parle aussi à la fin de l'extrait de gestion de l'offre. C'est un extrait là, qui vient de LCN, l'émission de Mario Dumont.
Je suis déçu, c'est pas approprié du tout. C'est pas acceptable de lui ou de son bureau à Washington. Qu'est-ce qui arrive? C'est pas correct, OK? J'estime M. Wiseman. Mais il est un ambassadeur. C'est un rôle diplomatique. Ce n'est pas un rôle où des gens prennent des décisions. Le gouvernement du Canada va défendre les intérêts du Québec, les intérêts et la gestion de l'offre, la culture québécoise et la culture francophone.
Bon, moi, je trouve ça mince de dire « Ouais, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions, fait que c'est pas grave si c'est juste en anglais. » là. Puis l'autre chose que, évidemment, avec le passé de M. Wiseman, ben là, le Québec va frapper sa gestion de l'offre sans bon sens. Fait que si on vient ouvrir un peu les quotas, il va être pointé du doigt.
Oui, mais je pense que, tu sais, premièrement, Mark Wiseman n'est pas le négociateur en chef. OK, c'est Janice Charrette. Puis c'est vrai qu'un diplomate met en œuvre les politiques du gouvernement. Mm-hmm. Donc, mais est-ce que cette contradiction-là peut être réconciliée? C'est sûr que on va le voir à l'usage, puis on va voir ce qu'il en dit aujourd'hui là, en témoignage parlementaire. Là. Je pense que c'est pour ça que ça va être révélateur. Pour le coup de l'invitation, je veux dire, ça ne s'invente pas. Là. Puis on va mettre une chose au clair. On aime ça dire que M. Wiseman n'est pas un francophile, etc., mais c'est pas lui qui a envoyé les invitations.
Ben
là. C'est ça, moi, dans mon livre, qui a d'inquiétant. C'est qu'il n'y a personne à l'ambassade qui se soit préoccupé que les invitations soient envoyées en français aux parlementaires francophones.
Oui, parce que c'est...
Dans un pays bilingue.
Exactement. C'est sûr que ça a passé dans les mains de entre 5 à 10 personnes. Là. Fait qu'il n'y a personne qui a allumé.
Puis il n'y a personne qui a allumé que c'était un enjeu. Et ça, c'est tellement révélateur de la difficulté pour le gouvernement de faire respecter la loi sur les langues officielles et de faire respecter le fait français qui n'est pas un luxe, qui n'est pas un « oh oui, il faudrait que », tu sais, mais que c'est supposé faire partie de l'ADN des relations internes au gouvernement, mm-hmm. de l'ADN de ce que projette le gouvernement du Canada comme étant un pays bilingue. C'est supposé faire partie de l'ADN d'envoyer des invitations bilingues.
Ben oui. Tu sais?
C'est pourtant pas compliqué, là.
Ben, ça et devrait
donc,
être simple.
Si on n'est pas capable d'envoyer des invitations bilingues, imaginez la place du bilinguisme ailleurs dans l'appareil gouvernemental, à quel point c'est un combat sans cesse, c'est comme un jeu tragique de serpent et échelle, là.
T'as entièrement raison. Hey, je termine avec Christine Fréchette qui, à 13h30, va être dans l'est de Montréal pour une grande annonce. T'attends-tu à de quoi pour l'hôpital Rosemont-Maisonneuve?
Oui, mais non, mais c'est clair. Là,
c'est clair. Hein?
Elle va confirmer le financement pour la prochaine étape de Maisonneuve-Rosemont. Je pense que, de un, c'est, il faut le dire, c'est un dossier pour lequel elle est sensible. Elle a déjà été présidente de la Chambre de commerce de l'est de Montréal, là. Puis, tu sais, s'il y a une tâche à effacer sur la dernière année du gouvernement Legault et dans ses relations avec Montréal, c'est bien le cafouillage éhonté autour du financement de Maisonneuve-Rosemont, dont on a promis la construction, puis dont on a oublié de mettre les sommes d'argent dans les budgets. C'est ce qui a donné lieu au mélodrame absolument lunaire là, qu'on a vu l'an dernier. Donc, je pense que pour elle, d'arriver avec cette annonce-ci rapidement, c'est une façon là, de cocher une case. Là, vous voyez, j'agis, je suis à la hauteur de mes responsabilités. C'est une façon d'envoyer un signal fort pour la grande région de Montréal, parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, Maisonneuve-Rosemont, les gens qui se font soigner là, ce n'est pas juste du monde qui habite sur l'île de Montréal. Là,
c'est un
grand hôpital de recherche, de soins oncologiques, de pointe, etc. Donc, ça ratisse là, l'est de l'île, mais aussi tout l'est des couronnes là, de Montréal là, jusqu'à assez loin. Donc, je pense que c'est une annonce qui est attendue depuis tellement longtemps là, que tant mieux. Puis, on voit que c'est son équipe et elle avaient minutieusement préparé son entrée en fonction.
Ah oui, hein?
Parce qu'objectivement, à tous les jours, elle arrive avec quelque chose de nouveau. Ça envoie le signal qu'elle était prête à gouverner et qu'elle veut essayer d'obtenir le plus de résultats possible dans le très, très, très court laps de temps qui lui est imparti.
Le fameux...
Maintenant, pour vous, à Québec, est-ce qu'elle va régler la question du financement du tramway?
Ah!
C'est entre les mains de Jean Boulay.
Oui, puis on est censé avoir Joël Lightbound demain en ondes avec nous, fait qu'on va pouvoir lui jaser de ça.
Bon, ben c'est parfait.
Yes. Non, le fameux script, je termine là-dessus, son fameux script de 100 jours, apparemment, qu'elle a écrit, là. On coche les cases une par une, hein?
C'est ça. Mais c'est un gouvernement qui sait où il s'en va.
Ben, exactement. En même temps, c'est rassurant, là, après la boussole où on gérait selon les sondages, d'avoir quelqu'un qui a une ligne de conduite claire. Moi, je trouve ça rassurant.
C'est ce qu'elle espère, en tout cas, parce qu'elle a besoin de ça si elle veut remonter dans les intentions de vote.
En effet, Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end. Et on se reparle lundi prochain. Emmanuel Latraverse dans le caucus avec nous du lundi au jeudi de midi à 12h30. Dans un instant, Boulevard 102.1, on va parler de deux choses. D'un, de nettoyage de la ville et de réparation des nids de poules. On est en retard, ça paraît. Vous nous le dites régulièrement au 418-971-1021. Il y a eu conférence de presse. Mathias Turcotte va venir nous résumer comment la ville va faire pour rattraper le retard. Et je vais vous parler de ces blessures au genou, le ligament croisé antérieur qui lâche chez nos jeunes de plus en plus. Pourquoi ça lâche? Quelles sont les pistes de solution? Vous allez voir, on a des responsabilités parentales, puis je suis convaincu que le milieu de l'éducation pourrait faire mieux également pour que nos jeunes se blessent moins. Mais avant, circulation, Pascal.
Juste rappeler le pont Pierre-Laporte-Sud au milieu de Tablier, ben c'est voie de gauche qui est bloquée. Il y a une panne remorquage en cours.
Vous êtes à l'émission Nageurs sur les ondes de Boulevard 101. Émission Nageurs, une émission d'actualité. Il est midi 37, pas une émission d'humour. Quoique demain, je me lance dans l'humour. Le Gang Show, 24 avril, salle Albert-Rousseau, 20h.
Ta grande soirée.
Ouais.
Tu t'es fait couper les cheveux, t'as magasiné du nouveau linge.
Je sais pas encore quand je vais passer, à quelle heure exactement je vais passer. Mais je sais qu'il faut que j'entre par la porte des loges, mes amis, loges pour les artistes.
Ah non, on n'entend pas parler longtemps.
Donc, Gang Show, je me suis pratiqué hier dans ma chambre pendant 1h15.
Oui, prêt?
Ouais, je réussis à faire mon numéro en 2 minutes 40 secondes. C'est demandé 3 minutes.
Nathan qui t'aide, est-ce qu'il a vu ta pratique?
Nathan m'a vraiment aidé. C'est parfait parce que je veux finir avec une petite note un petit peu plus sérieuse sur mon numéro. Donc, je vais avoir un 20-25 secondes pour le faire parce que je vais quand même faire des blagues sur la thématique du suicide.
Oui, c'est difficile, ça.
Exactement. Fait que je veux m'assurer que...
Tout le monde est correct dans la salle.
Oui, c'est ça, exactement. Je veux m'assurer de ça après. Donc, c'est pour ça que je visais un 2 minutes 30, 2 minutes 40. Hier, je le rentrais en 2:40 top chrono.
Ça, c'est par cœur, là.
Oui, exactement.
Ta prestance, puis ton delivery, comment tu te sens là-dedans?
Ça va sortir comme ça va sortir.
Tu te mets plus de pression.
Plus de pression, je vais aller naturel. Puis de toute façon, je suis convaincu qu'en parlant de suicide, ils ne pourront pas gagner, fait que je vais être correct.
Ouais, tu penses qu'ils vont sentir trop mal?
Ben, c'est ça, on dirait Colin, David,
Marie. Ou premier coup, ils ne voudront pas prendre de chance pour que les gens dans la salle ne sonnent pas trop.
En tout cas, on verra si c'est une bonne stratégie, là, je ne sais pas trop. Mathias Turcotte qui est avec nous en studio, justement. Tu avais de quoi dire, Mathias?
Ouais, non, mais t'imagines-tu, si tu te gardes, mettons, un 20-30 secondes pour parler plus sérieusement de suicide à la fin?
Ouais.
Puis qu'eux autres, ils se disent, on va attendre le dernier moment pour le gagner.
Imagine.
Parce que tu ramasses à gagner durant ton 30 secondes
non.
Sérieux.
Ah, c'est quand même une bonne stratégie.
Mais ce serait quand même
c'est
malaisant.
C'est
malaisant.
C'est assez politicien.
Ouais.
Hein.
Ouais. Exactement. Ils pourront pas gagner.
Ce serait malaisant, maudit.
C'est un grand malaise.
Le gars, il est en train de faire un message de sensibilité pendant 20 secondes à la fin. Bing,
mais ce serait une bonne joke. J'entends mon sale.
Ouais, c'est ça.
Drôle, on parle pas de ça.
Merci à Nathan Meilleur parce que les jokes que je vais livrer demain, il y a 75% qui viennent de la plume de Nate, 25 de moi. Alors,
la livraison va venir de toi.
Ouais, c'est ça. Mais Nate,
t'es comme un vrai humoriste, là. Ouais. Il y en a plein qui ont des scripteurs.
C'est ça, Nate.
Un ghost writer.
Yes.
Ouais, Nate a été un excellent scripteur. Je suis vraiment heureux. Donc, demain, Gang Show, je vais justement tenter de livrer la marchandise pour représenter fièrement Boulevard 102 parce que Nathan Meilleur va représenter Weekend 91.9. Alors, faut battre Weekend, tout simplement. Faut que Boulevard batte Weekend. Mais Nathan Meilleur, vous allez l'entendre dans le retour aujourd'hui parce que Denis est absent. Alors, ça sera Audrey avec Véro et Nathan, autant pour aujourd'hui que pour demain. Avant qu'on parle de propreté, de nid de poule, de cette ville de Québec qu'il faut remettre belle. Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Nouvelle sur la voie qui s'ouvre pour les conteneurs au port de Québec. Donc, le Journal de Québec, il vient de sortir ça sous la plume de Taïeb Moala. C'était dans l'air depuis un bon bout, mais là, on serait officiellement désigné le port de Québec comme terminal de conteneurs pour le commerce international. On sait qu'on travaillait très, très fort pour ça. C'était un enjeu économique important pour la région. L'annonce doit avoir lieu demain à Québec, à la baie de Beauport, en présence du ministre fédéral Joël Lightbound, que tu vas recevoir, et de plusieurs députés de la région, dont la mairesse suppléante de Québec, Catherine Vallière-Rolland, annonce qu'il va ouvrir la voie au projet sur l'opérateur maritime QSL. C'est pour transporter jusqu'à 200 000 conteneurs par année.
Joël Lightbound sera en studio demain aux alentours de 12:30. Donc, ne manquez pas ça. On va évidemment parler de cette annonce. On va parler aussi du fameux financement du projet de tramway et d'autres projets dans la capitale nationale. Normalement, c'est cet après-midi que Joël Lightbound rencontrait Bernard Drainville, le nouveau super ministre de l'économie et de l'énergie. Si vous avez raté l'entrevue avec Bernard Drainville d'hier, c'est disponible sur le blvd.fm. Et on va nécessairement parler de centre, M. Lightbound et M. Drainville. Puis je pense qu'on va se préparer une stratégie aussi pour les contestataires du projet. Parce qu'il y en a, il y a des gens dans Limoilou qui sont très inquiets pour le passage de camions lourds. Je les comprends. Alors, bien hâte de voir l'annonce et de voir comment on a planifié le tout du côté des paliers de gouvernement pour les craintes des citoyens à proximité.
Après le débat, la petite polémique autour de la SAQ qui payait des influenceurs pour promouvoir leurs produits, on est encore face à des baisses de ventes. Hein? Les zones SAQ, c'est pas facile. On veut pas avoir les coffres moins remplis, c'est ce qu'on comprend. Et on faisait justement face à tout ça. En raison de cette baisse-là, la SAQ a tenu à justifier sa pertinence. Elle dit qu'elle est encore là, elle est encore là pour rester. Elle veut s'adapter. Donc, elle veut aller là où les consommateurs se multiplient, donc épicerie, dépanneur. Et on veut communiquer davantage. On ajoute l'envoi de messages textes et de notifications pour les Québécois, les Québécoises. On veut aller chercher les gens de cette manière-là. Moi, ça me fait sourire, Jeff, parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est toujours apprécié non plus, de recevoir une notification. Puis, t'en as beaucoup dans le temps du Black Friday, des entreprises qui en envoient, oubliez-nous pas, voici les rabais, les ci, les ça. Est-ce que ça va fonctionner? C'est une bonne question, mais on va avoir un nombre de mini-agences rebaptisées les zones SAQ dans les endroits où je vous parlais, puis en plus, bon, on va avoir ces textos-là pour vous dire, ben allez acheter de l'alcool. C'est pas mal ça.
C'est pas mal ça. Allez consommer, puis après ça, bon, on va faire des programmes de prévention à l'alcoolisme.
On parle des jeunes aussi. C'est un rapport de la santé publique de Montréal qui dresse des constats assez préoccupants concernant la santé des jeunes. Ça a été cité d'abord par la presse. On disait que les jeunes vapotent autant qu'aujourd'hui qu'ils fumaient la cigarette il y a 15 ans. Puis il y a une autre tendance inquiétante qui est soulevée par la santé publique. Pour la première fois, les filles consomment plus d'alcool et de drogue que les garçons. Point positif, c'est le niveau de consommation d'alcool. On dit niveau de consommation d'alcool, de drogue, de tabac chez les adolescents. Ça a globalement diminué dans les dernières années, mais on a remarqué qu'on ne compte pas le vapotage là-dedans. Okay? Donc, données qui ont été collectées à partir de questionnaires qui ont été remplis par 5 800 élèves, une centaine d'écoles publiques, secondaires et privées de Montréal. Nouvelle qui fait bien réagir, et c'est l'ex-conjoint d'un ancien joueur de la LNH qui poursuit son ex pour 600 000 $ pour enrichissement injustifié. Elle soutient avoir sacrifié sa carrière pour soutenir celle de son ex-conjoint. C'est une poursuite qui a été déposée en Cour suprême et c'est cité par le Journal de Québec. C'est une relation qui a duré 20 ans, qui aurait permis au hackeur d'accumuler un patrimoine estimé à environ 2 millions de $. Puis elle demande d'avoir ce montant-là d'argent parce qu'elle affirme avoir mis ses propres ambitions professionnelles de côté. Elle l'a suivi en Amérique du Nord, en Europe. Elle a assumé les responsabilités familiales et c'est 30 % des actifs accumulés pendant leur union qu'elle souhaite avoir à ce moment-là. Puis Max Larouche a reçu une avocate en droit de la famille ce matin. C'était fort intéressant sur le dossier.
Oui, c'est Maître Gabrielle Martineau des Hôtels. On écoute justement un court extrait où elle explique qu'est-ce que l'enrichissement.
Il y a des critères qui donnent ouverture au recours d'enrichissement injustifié. Faut qu'il y ait d'abord un enrichissement d'une des deux parties, un appauvrissement de l'autre. Faut qu'il y ait une corrélation entre les deux. Puis il y a d'autres critères aussi que la jurisprudence là aurait sorti. Et dans les cas de conjoints de fait, il y a aussi là, certaines présomptions là, qui s'appliquent quand on est dans le cas d'une union de longue durée.
Alors voilà pourquoi justement il y a ce processus-là en cours. Union de longue durée, enrichissement d'un joueur d'hockey qui a sa carrière versus une conjointe qui demeure à la maison sans travail pour s'occuper des enfants et de toute la routine que ça prend. Alors, ça va être un dossier qu'on va suivre attentivement en cours.
Absolument. Le nombre de réclamations au ministère des Transports du Québec pour des dommages qui sont liés à des nids de poules, c'est des nouveaux sommets qu'on atteint au Québec. Et le Journal de Québec a rapporté que 2,2 millions de $ ont été réclamés au ministère depuis le début de l'année 2025. Seulement 5 % des demandeurs ont été indemnisés. C'est difficile, il faut avoir des preuves. Par exemple, une photo, il faut aussi lancer dans les démarches administratives pour plusieurs jours. Une demande à l'accès à l'information pour obtenir des preuves que les autorités ont été négligentes. C'est super difficile. Puis à Québec, ça, c'est des données de Radio-Canada. On dit que la Ville a reçu en 2025 un nombre record de 469 réclamations d'automobilistes dont la voiture a été endommagée après avoir roulé sur un nid de poule.
Exactement. Puis après tout le processus que tu as mentionné, Nicolas Ryan nous expliquait qu'il faut encore faire ça si on veut aller au bout de notre réclamation.
Est-ce que ça vaut la peine que je fasse toutes les démarches et après ça que j'ouvre un dossier à la Cour des petites créances, que je me présente en cours, que j'aille plaider contre eux autres, que j'explique mon point sans nécessairement connaître ça? À la fin de la journée, les gens vont regarder ça et vont dire « ça vaut-tu 400 $ et la plupart vont probablement juste abandonner ou simplement envoyer une réclamation sans faire de suivi. Tu pourrais expliquer qu'il y en a aussi peu qui a été payé avec le temps.
Entrevue disponible sur blvd.fm et voilà, on comprend pourquoi pour 400 $ les citoyens ne le font pas. C'est tout? Excellent.
Le midi, on en jase. À Boulevard Saint-Denis.
Parlant de nid de poule, il y en a une barge à la Ville de Québec aussi. Ah, il y a aussi tout ce processus de nettoyage des rues qui prend du temps. Ça sent mes manques de peinture à des places. Bref. La trouvelette, notre ville, présentement. Je me trompe-tu, Mathias Turcotte?
J'ai envie de te dire qu'à chaque printemps, c'est tout le temps un peu plus difficile. On va pas se mentir. Sauf que ce printemps-là semble plus difficile que les autres auparavant. Puis ce matin, on a eu un point de presse, justement, c'est Marie-Josée Asselin, qui est responsable au comité exécutif de l'entretien des voies de circulation, sur le fameux ménage printanier, des nids de poules ou encore le marquage. Donc, plusieurs sujets qui font jaser parce que le monde se promène, puis on s'en rend compte. Les rues sont pas encore nettoyées. Mm-hmm. Les lignes sur les routes sont pas encore faites, parce qu'on n'en a pas plus là, à grandeur de la ville actuellement. Puis les nids de poules sont plus que présents cette année.
Hé, hey, dis-moi donc, je suis allé à Montréal en fin de semaine. Me suis promené.
Oui.
J'ai vu du caillou dans les rues.
Oui.
Mais il y en avait dans les rues, puis il y en avait ces pistes cyclables. Mais là, quand je me promène à Québec, comme ici, pas loin, il y a la piste cyclable. Je vois pas de cailloux sur la piste cyclable, mais j'en vois dans la rue. C'est normal, ça?
Ben, pour l'instant, ça se peut que ce soit un hasard. Parce okay. qu'on a pris du retard côté ménage. Là. C'est deux semaines de retard qu'on a au ménage printanier actuellement.
C'est dû à quoi, ça? La neige?
C'est surtout la météo.
La météo.
On dit qu'on a eu de la neige plus tardive qu'actuellement. Certains diront on a de la neige chaque année, puis effectivement. Mais du côté de la ville, on l'explique, on dit on a eu de la neige, la météo a été un peu plus difficile.
Okay.
Ce qui fait en sorte qu'on a pris deux semaines de retard.
Ça nous tente-tu d'innover pour l'année prochaine ou pas pantoute?
Pour l'instant, ça, on n'a pas commenté. Là. Mais deux c'est semaines bon. De retard, ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ceux qui se disent, hey, c'est plus sale qu'habituellement, bien, effectivement, habituellement, c'est commencé deux semaines plus tôt. Le calendrier de nettoyage pour l'instant a été publié par la Ville de Québec, puis on accélère le tout à partir de la semaine prochaine. Sauf qu'il y a quelque chose qui va retenir votre attention très rapidement. Le nettoyage des artères principales est prévu à partir de la semaine prochaine, mm-hmm. donc du 27 avril jusqu'à la fin mai. Le nettoyage des rues résidentielles, c'est de la mi-mai jusqu'à la fin juin. Pour ce qui est du nettoyage des pistes cyclables, c'est du 27 avril, donc à partir de la semaine prochaine, jusqu'à la mi-mai. Donc sur tout ça, ce qu'on nettoie en premier, ce qu'on nettoie le plus rapidement, c'est les pistes cyclables dans ces trois points-là. Il y a une raison derrière ça et Marie-Josée Asselin, qui est responsable d'entretien des voies de circulation pour la Ville de Québec, nous a expliqué pourquoi les pistes cyclables étaient priorisées.
On sait que dans plusieurs quartiers, les bandes cyclables sont utilisées par les jeunes qui vont à l'école primaire ou secondaire, notamment en vélo au printemps. Donc, on veut pouvoir rapidement les nettoyer pour pouvoir assurer le marquage et rendre ces bandes cyclables-là sécuritaires.
OK, c'est
et
un mensonge.
Puis le marquage, là, puis le marquage aussi.
Ah,
là,
ouais.
C'est partout le chaos là, ouais, en ce moment, ces autoroutes. Là.
Mais je reviens sur les pistes cyclables. Là. C'est un mensonge. C'est juste une question d'idéologie.
Pourquoi tu dis ça?
Ben parce que, tu sais, je veux dire, tu peux commencer, tu peux nettoyer la piste cyclable en même temps que tu nettoies la rue. Tu devrais privilégier les deux, pas les pistes cyclables. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas plus d'enfants. Là. T'en vois-tu, toi, des quartiers où il y a 300 enfants qui vont à l'école en vélo. Il y en
pour
a
toi,
pas,
pour toi, c'est
pas.
Vraiment réfléchi. Là.
Ben oui, c'est idéologique. C'est ben, clair. 418-971-1021, vous en pensez quoi?
Une chose est sûre, du côté de la ville, on se défend. On dit, ah
ben
non,
oui.
non,
ben
c'est,
oui,
c'est pour
on va
pour
toujours
les
lancer une défense, mais c'est idéologique. T'sais. L'hiver, on voit le trottoir pas déneigé, puis la piste cyclable déneigée. Il n'y a pas besoin de...
Puis,
en tout cas,
puis,
c'est mon opinion.
Ah oui, puis pour ce qui est des quartiers résidentiels, on explique le fait qu'ils passent en dernier parce qu'on dit on veut laisser le temps aux résidents de nettoyer eux-mêmes leur terrain parce qu'ils disent si on ramasse les rues et par la suite, c'est ensuite de ça que les résidents nettoient leur terrain, ben ça se peut qu'il y ait du gravier qui se retrouve dans nos rues par la suite. Donc, on veut pas avoir à repasser
mais
deux
c'est
fois.
Vrai que dans
c'est comme ça qu'on explique
c'est vrai
ça.
Que dans les quartiers, quand il commence à faire beau, les jeunes, je ne suis pas au hockey dehors, je ne suis pas au basket dehors. Tu n'utilises pas la rue. Ils utilisent juste la piste cyclable. Ils sont juste à vélo, nos jeunes.
Si ça te tente de chialer, Jeff, j'ai un bon sujet pour toi
les
aussi.
Nids de poules.
Les nids de poules. Parce que les réclamations sont en hausse depuis maintenant 2 ans. C'est 280 réclamations en raison de bris de voitures sur des nids de poules depuis le début de l'année. Là. En date du 17 avril, ces données-là, c'est dans Radio-Canada ce matin. Pour 2024 au complet, c'était 127 réclamations. Fait qu'on a plus que doublé le nombre. Puis l'année n'est pas encore finie du côté de la ville de Québec. Donc, on voit une grosse augmentation. C'est une tendance. J'ai posé la question à Mme Asselin, est-ce que c'est parce que nos routes sont moins belles? Sa réponse, c'est oui, puis elle apporte quelques précisions.
Bien, effectivement, tout le monde le constate. Les changements climatiques, les épisodes de gel et dégel, quand on parle de bris d'aqueduc en hiver, on passe, par exemple, un fil d'une utilité publique, puis qu'on crée une fissure dans la rue pour installer quelque chose, bien, la chaussée, elle n'est plus complètement intacte. Elle a une cicatrice, donc les infiltrations d'eau causent des nids de poules. Puis on a plus de pluie l'hiver qu'on en avait avant. Donc, que ce soit partout comme ça au Québec, je pense que ça démontre que ce n'est pas un enjeu, que la ville de Québec est pire qu'ailleurs.
Très content de voir qu'on a conscience que nos routes sont moins belles. Maintenant, ben, on en parlait ce matin justement avec Nicolas Ryan. Il va falloir que le gouvernement trouve des pistes de solutions pour améliorer l'asphalte, pour améliorer la surveillance des chantiers. Il va falloir que ça s'applique aux villes également. Mais tu sais, quand je regarde les déficits des infrastructures qu'on a, il y a des choix politiques aussi qui ont été faits. Puis là, je ne blâmerai pas juste l'administration Marchand où on n'a pas investi dans l'asphalte, on a investi dans d'autres projets.
Oui, puis je veux dire, actuellement, le budget qu'on donne pour reboucher des nids de poules, là, je vais vous imaginer ça là, pour vous donner une idée. On veut reboucher 30 000 nids de poules du côté de la ville de Québec cette année. On a environ fait 8 500 jusqu'à maintenant. C'est 1,15 million de budget pour les nids de poules au total. Si on fait une petite règle de 3, une petite division rapide, 1,15 million, 30 000 nids de poules, c'est 38$ par nid de poule.
Puis pas juste ça, il dure c'est combien de temps? Tu sais, il y en a un, mettons, puis c'est pas dans la ville de Québec, mais moi, c'est à Saint-Augustin. Quand t'es sur l'Étrière, puis tu veux prendre l'autoroute, là, il y en a un qui a été patché il y a un mois et demi. Il est à nouveau tout scrap. Fait que là, tant que les gens se disent « Oh, parfait, j'ai plus besoin de briser ma voiture là-dessus, je peux rouler dessus », il est redevenu scrap, mais c'est la même chose à Québec. C'est juste que c'est l'exemple qui me vient en tête.
Puis c'est une problématique que tout le monde voit, mais dont les élus également. Là, la question a été posée à propos de ça à Mme Asselin. Ces fameux nids de poules-là qui durent pas longtemps, justement, est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on a des données par rapport à ça? Puis est-ce qu'on a des solutions? Mme Asselin, ce qu'elle dit, c'est que malheureusement, c'est normal que les nids de poules ne durent pas nécessairement si longtemps que ça.
Bien, c'est sûr qu'une fois qu'il y a un trou dans une chaussée, c'est une cicatrice. Fait que c'est pas une asphalte qui est intacte puis qu'il y a pas de trou. Chaque fois qu'il y a un nid de poule qui est réparé, c'est sûr que c'est propice à ce qu'il y ait de l'infiltration puis que ce nid de poule-là rebouge dans le temps. Je pourrais pas vous dire si on a vraiment géo-référencé chacun, mais c'est sûr que les équipes, si vous leur posiez la question puis vous posiez la question aux citoyens, il y a des secteurs où on le sait qu'à chaque année, tant qu'on refera pas l'asphalte au complet, il y a des nids de poules qui vont être à réparer à chaque année.
Mais dis-moi donc, Matt, il doit exister d'autres choses que ce qu'on fait à l'heure actuelle qui se crappe tout le temps?
Ben oui, mais c'est toujours une question de coût, hein, parce que l'opposition, David de Québec, Respect citoyen, avait proposé la nanotechnologie, l'asphalte, qui est comme une technologie qui est plus durable, sauf que ça coûte 3 fois plus cher, puis c'est une technologie qui est garantie 6 mois.
Ouais, donc, fait que ça passe final, pas ben, une année, ça passe pas un hiver.
Ben c'est ça, je vous rappelle, là, c'est 38$ par nid de poule. Faites le calcul, c'est pas gros d'argent qu'on a à dépenser pour reboucher des nids de poule actuellement. Si on triple le prix, c'est 3 fois plus de budget, puis on n'est pas sûr que ça passe l'hiver pour autant.
Pis Simon Bourassa, tu sais, à Québec, nous apprenait la semaine dernière, si je me souviens bien, que quand il y a un nid de poule, c'est la dernière étape dans la dégradation d'une rue là, ou d'une autoroute. Ça veut dire qu'on est vraiment rendu à la toute fin viable de cette autoroute-là. Puis on est encore dans des réparations temporaires. On priorise certaines routes, oui, avec des axes achalandés, mais le budget est limité. Puis le climat au Québec, il est ce qu'il est. La formule est toujours la même. Puis parfois, on va aller les remplir dans le gel-dégel.
Fait que ça veut dire qu'il faut vraiment investir à la source. Donc, quand on refait la rue, la refaire de façon plus durable, donc changer les techniques qu'on a à l'heure actuelle.
Ben une chose est sûre, il va falloir trouver des nouvelles techniques. T'as raison, Jeff, parce qu'actuellement, c'est pas juste un problème à Québec, c'est un problème au Québec.
Exactement.
Là, partout, on voit que l'état de nos routes se dégrade. C'est pas juste ici, ce phénomène-là.
En effet. Pascal en parlait tout à l'heure. Il y a le marquage aussi. Oui. Le marquage, on le voit partout, au niveau des autoroutes, au niveau de nos boulevards urbains. Pourquoi on est en retard comme ça à l'heure actuelle?
Ben, c'est parce qu'il faut 10 degrés dehors hein, durant la nuit pour faire un marquage au sol.
On est encore dans les nuits à moins 1, moins 2.
Si on est capable de comprendre, si on n'est pas niaiseux, là, si on sait qu'il faut un 10 degrés, on est un peu plus enclin à pas chialer là-dessus.
Ça, exact. Puis habituellement, ça arrive à la mi-mai. Donc, normalement, mi-mai, si on est dans une saison normale, on devrait être en mesure de faire le marquage. Puis du côté de la ville de Québec, on s'en cache pas. On sait que le marquage actuel, il est à refaire chaque année. Là. On sait que c'est ça.
Ça s'est-tu dégradé plus que les autres années ou c'est parce que je suis plus pointilleux là-dessus ou que je passe par des nouveaux chemins et que les rues sont moins bien marquées?
Ben, c'est une bonne question. Peut-être, mais en même temps, présentement, on a un marquage au latex à base d'eau. Puis on le dit, puis on le répète, du côté de la ville, on le sait que ça ne dure pas, ce marquage-là. Je veux dire, c'est pas une surprise, on est au courant. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on a quand même certaines normes qui sont obligées par la province actuellement concernant la peinture. Là, ce qu'on dit du côté de la ville, c'est que bon, on est conscient que la peinture ne t'offre pas. Faut la refaire chaque année. On a des artères principales quand même que c'est tannant, là, la refaire chaque année. Donc, on fait quelques tests, quelques projets pilotes actuellement, notamment avec de la peinture à l'époxy, donc qu'on va appliquer un peu partout dans la ville. Madame Asselin explique pourquoi on va faire ces tests-là et où qu'on va les faire.
C'est quelque chose qui est bien connu comme étant efficace sur de la chaussée neuve. Mais là, on va le faire sur différents types de chaussées plus vieilles, sur du longitudinal, c'est-à-dire des lignes de rue, sur des traverses piétonnes, sur des pictogrammes, pour voir c'est quoi le gain qu'on peut aller chercher.
Bien ça, je suis très content de voir qu'on essaie des nouvelles choses, honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez au 418-971-1021. Tout à l'heure, vous étiez d'accord avec moi que c'est une question d'idéologie au niveau des pistes cyclables. Ça, je suis content. Je suis content de voir qu'une solution présentement qui est en test. Je pense qu'il va falloir trouver une solution en test aussi pour les nids de poules. Il n'y a pas de doute dans
l'esprit. Ah oui. Puis la question qui se pose tout le temps, c'est si on investit plus, est-ce que c'est payant d'investir plus? Parce que on revient à la peinture à l'époxy. Ça coûte beaucoup plus cher que la peinture qu'on utilise actuellement. Fait que si on se rend compte que finalement, ben, elle ne dure pas nécessairement plus longtemps, ben, on va sûrement garder ce qu'on a actuellement.
Au moins, ils font des tests.
Ça coûte plus cher, exact.
Mais tu sais, des fois, au provincial, on se fait tellement répondre la loi du plus bas soumissionnaire. Moi, j'ai peur aussi que ça puisse bloquer dans ces affaires-là.
En effet.
C'est tellement vu et revu. Check bien, les journalistes, la prochaine fois, vous allez poser cette question-là. OK, parfait. Mais est-ce que ça va passer dans la loi du plus bas soumissionnaire?
Ouais, ça, c'est une bonne question. Puis on sait qu'au Québec, on a toujours tendance à juste prendre ce qui coûte moins cher, malheureusement.
Mathias Turcotte, merci. Excellent job encore une fois.
Jusqu'à 14h.
Midi 59 minutes. J'ai été sidéré ce matin de lire dans le Journal de Québec que les blessures aux ligaments croisés intérieurs, blessures aux genoux chez nos jeunes, étaient en explosion. Et pas juste les blessures, les chirurgies. Et ça, quand tu as cette blessure-là, ben, tu es marqué à vie. Puis tu as des conséquences à vie, justement, sur ta flexibilité, ta rapidité, ton endurance. Alors, j'ai pensé parler avec Edith Castonguay, physiothérapeute chez PCN, pour en savoir plus sur cette dite blessure, parce que ça m'inquiète énormément. Et premièrement, je vous présente comment, justement, on se blesse à ce fameux ligament croisé intérieur.
La blessure du croisé antérieur, comment ça se passe? C'est souvent un changement de direction rapide. Donc, on plante le pied au sol, on change de direction. Donc, on retrouve souvent ces blessures-là au frisbee, au soccer, flag football, maintenant, qui est aussi en grande montée là, dans la région de Québec. Le football, bien sûr, mais aussi, ça peut arriver, par exemple, au hockey, même sur glace, où est-ce qu'on plante le pied au sol.
Donc là, moi, par rapport à ça, Mathias et Pascal, je me disais, ouais, c'est dommage parce que c'est une blessure qui arrive sans contact. C'est une blessure sur un changement de direction. C'est une blessure que je fais dans un sport qui demande de la rapidité, de l'agilité. Donc là, je me disais, bah, pas vraiment grand-chose à faire. C'est un constat général. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Il y a plus de blessures. Mais Edith Castonguay m'a amené sur un terrain que j'ai adoré. Je vous laisse entendre.
Mais la surspécialisation, ce que ça nous amène, c'est que notre corps devient bon dans certains mouvements. Donc, on contrôle ces mouvements-là, mais on est moins préparé à l'imprévu ou au changement de direction. Donc, notre musculature, en fait, la musculature aussi au niveau de l'adolescence et des enfants, se développe, je vais dire, dans un seul mouvement ou dans une direction préférentielle qui nous amène une certaine fragilité à ce moment-là pour nos jeunes, pour leurs genoux.
Hey, ça m'a allumé, ça. Je ne sais pas si ça vous allume. La surspécialisation. Ça veut dire que si mon kid joue au hockey, au soccer, au football, 12 mois par année, moi, en tant que parent, je le mets plus à risque d'une blessure qui va hypothéquer sa vie.
Les experts parlent souvent de tout ce qui est positif à pratiquer différents sports pour la mobilisation complète de ton corps, puis même ta flexibilité. Tout ça, on a ajouté du yoga chez les joueurs de foot dans les dernières années. On a ajouté des choses parce qu'on voyait qu'ils barraient les corps de ces athlètes-là, en plus de les pousser des fois à leurs grandes limites. Là.
C'est ça.
Puis, non, mais c'est intéressant parce que même, par exemple, si tu joues au hockey, de plus en plus, les sports-études hockey ont tendance à dire, tu joues au hockey, tu vas faire ton école le matin, par exemple, tu vas venir dîner, puis on va faire 2 heures de patinoire par la suite. On va être sur la patinoire tout après-midi. On va jouer au hockey tout après-midi. Au lieu de dire, hey, par exemple, cette journée-là, on va faire une heure de plyo, une heure de hockey, une heure de musculation, une heure de hockey. Puis ça, cette méthode-là, en tout cas, moi, quand j'étais en sport-études, c'est plus cette méthode-là qu'on faisait. Ça faisait en sorte que, oui, on jouait beaucoup au hockey, on se spécialisait dans notre sport, mais malgré ça, on avait des moments, même dans notre sport-études, où qu'on allait développer tous nos muscles, où qu'on développait nos muscles. Puis ça, si tu mets de côté ça, ces périodes de musculation-là, mais ça fait en sorte que tes muscles sont plus fragiles automatiquement quand tu fais ton sport.
Exactement. Puis tu amènes tellement un bon point quand tu parles des écoles. Je vais te parler des associations sportives qui offrent maintenant des programmes 12 mois par année pour garder le jeune puis l'argent du jeune, là, puis le bénévolat du parent avec eux autres. Fait que moi, pour moi, ces blessures-là, je voyais deux responsables à présent. Le parent, parce que je me dis, coudonc, le parent, il a la responsabilité de varier les sports pour son enfant. Et ce que tu dis là, les programmes sportifs dans les écoles, les associations, etc. Souvent, en tant que parent, on dit « Ouais, mais si mon jeune joue à un sport pendant 12 mois par année, il va atteindre la Ligue nationale de hockey. » Tu sais, c'est l'exemple le plus facile à dire. Voici ce qu'Edith Castonguay en pense.
En fait, les recherches le prouvent. Hein? Un jeune qui pratique, qui se spécialise dans un seul sport va être bon dans ce sport-là quand il est jeune. Mais si on veut que notre jeune il soit bon et qu'il continue à bouger, puis ça, c'est l'important, bien, il faut qu'il pratique une panoplie de sports avant l'âge de 14 ans. On ne devrait pas avoir un seul sport, on devrait en avoir plus de 3 des fois.
Donc, c'est capoté de voir des jeunes qui ne sont pas capables, par exemple, de jouer, mettons, au soccer parce qu'ils ont une spécialisation dans d'autres choses puis leur corps ne s'est pas développé. T'sais, nous, on jouait dehors, on faisait du vélo. C'est souvent ce que j'entends.
T'sais, pour moi, un bon sportif est capable d'être bon dans tous les sports. C'est la base. Puis honnêtement, je reprends le hockey. Je pense que le hockey, dans un certain sens, c'est bon pour ça aussi. On développe pas mal tout notre corps. On n'a pas le choix. On est obligé, autant haut du corps que bas du corps. Ça fait en sorte que souvent, quand on va jouer au basketball, au soccer, on va être bon aussi. Sauf que quand tu n'as pas le réflexe d'aller développer ton corps au complet, ben c'est sûr que ça peut créer certains problématiques.
Exactement. Et là, présentement, le réflexe est à la surspécialisation. Pourquoi? D'un, parce que les associations n'arrêtent pas de te dire qu'il faut juste que tu fasses ça. T'sais. Puis là, on parle beaucoup de hockey, de soccer, mais je vais vous parler de cheerleading. Moi, j'ai un couple d'amis qui ont une petite fille dans le cheerleading. Ça va pas de cheerleading 12 mois par an, elle fait pas partie de l'équipe de compétition. Fait qu'à un moment donné, il y a cette pression-là qui arrive également. Puis, pourtant, la meilleure façon de développer un athlète d'élite, que ce soit un Olympien, on le vit avec la Norvège, un joueur de la Ligue nationale ou une membre de l'équipe canadienne de cheerleading, ben ça va être de faire plusieurs sports. C'est fou comment on est dans le champ. Hein?
Puis t'en parles aussi, 12 mois par année. Puis de plus en plus, je sais pas si ça a un lien, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on a des jeunes qui sont en surentraînement aussi. Par la spécialisation, ce qu'on fait souvent, c'est de l'entraînement presque 7 jours sur 7.
Aux mêmes endroits sur ton corps.
Ben, aux mêmes endroits sur ton corps, tu fais toujours les mêmes mouvements à longueur de semaine, en répété, pas nécessairement de jours de repos. On peut penser aux réseaux sociaux récemment, au cours des dernières années. On ciblait beaucoup juste l'entraînement en musculation, en gym, puis les influenceurs de gym, eux autres, ce qu'ils prônaient, c'était de s'entraîner 7 jours semaine.
Ouais.
Jamais prendre de repos, mais ton corps, à un moment, a besoin de repos. Donc, c'est sûr que si on met nos jeunes dans des situations que pendant 12 mois par année, 7 jours sur 7, ils s'entraînent sans cesse les mêmes muscles à faire les mêmes mouvements.
Ton raquage, c'est de la micro-fissure. Quand ta micro-fissure n'a pas le temps de reprendre un peu son galon là, dans ton corps, ça fait toute la différence. Tu sais, quand on montait le Kilimanjaro, là, nous autres, on nous avait dit, faites pas juste vous entraîner, par exemple, de la force des cuisses d'une manière. Il faut aussi que votre arrière de jambe soit musclé. Il faut que vous soyez capable d'avoir un semi-cardio. La marche, elle est hyper importante. Marche à l'envers sur ton tapis roulant. Marche pas juste à l'endroit. Tu sais, c'était une spécialisation complète, le corps, ce qui est appelé le corps, à l'intérieur même de ton corps, d'être capable d'être solide. Fait que tu venais pas comme un marathonien. Ton corps vient pas sur une spécialisation corporelle non plus. Là. Il se développe en entier.
Quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à l'école aussi, puis je vous explique. C'est que moi, mon gars, là, ben mes deux gars, là, ils se tapent des cours d'art plastique depuis le secondaire. Ils chicanent avec leurs profs. Je pogne à gérer leur comportement en art plastique. Ça les motive pas à aller à l'école. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi? Puis là, ça peut valoir autant pour les garçons que pour les filles. Ils aiment ça s'entraîner. Ils aiment ça être au gym. Moi, je me suis construit un gym dans mon sol. Ils s'entraînent dans le sol chez nous. Ils aiment ça. Ils trippent. ils prennent des trucs d'entraînement sur les médias sociaux. Ils prennent des trucs d'entraînement avec leur entraîneur sportif et ils reproduisent. Parce que, saviez-vous que chez les gars, c'est 19,4% de nos garçons qui décrochent encore de l'école?
Parce qu'il y a des choses qui ne les rejoignent pas.
Ben c'est ça. Pensez-vous vraiment que l'art plastique les rejoint?
En même temps, ce que j'aime de l'école... physique. Puis je ne sais pas en quelle année ça devrait arrêter ou quoi que ce soit, mais de toucher à tellement d'affaires différentes ouvre quand même des horizons. Puis des fois, tu vas découvrir quelque chose. Ouais. Là, c'est sûr, tes gars, ils n'aiment pas leur plastique, c'est encore là. Mais c'est dur de pas être positif face à une découverte totale de plein de choses.
Mais sans viser l'art plastique nécessairement, ça, je pense que c'est quand même un problème qu'on peut aller chercher. Le nombre de périodes d'éducation physique qu'il y a dans une semaine au secondaire. J'étais en sport-études, j'en avais une par semaine. Présentement, c'est quoi? C'est deux par semaine?
En sport-études, t'avais une période?
J'avais une période, parce que sinon, c'était sport-études. Mais sinon, c'est quoi? C'est deux périodes aux deux semaines qu'on a? Là. C'est
tu frappes le point exactement d'Edith Castonguay.
Pourquoi on n'utiliserait pas ces cours-là pour faire la découverte de différents types de musculation, d'entraînement? Ça peut être du yoga en éducation physique, ça peut être de la musculation, ça peut être de la natation si on a les installations. Mais je pense que oui, en effet, il devrait avoir plus d'entraînement, il devrait avoir plus d'entraînement diversifié aussi, puis nos jeunes devraient bouger davantage parce que...
Deux cours d'éducation physique par 9 jours à l'école. Fait que tu sais, là, je parle d'art plastique, mais si on remodelait vraiment le cursus éducatif de nos jeunes pour les amener à savoir comment s'entraîner, comment prendre soin de leur corps, puis à découvrir des nouveaux sports. Ça permettrait-tu aux gars de rester plus à l'école? Je pense que oui. Ça nous permettrait-tu d'avoir plus que 46 % des garçons qui ont une vie active à l'heure actuelle et 35 % des filles? Je pense que oui. Ça nous permettrait-tu de diminuer l'obésité au Québec, qui est à 25 % chez les filles et 29 % chez les hommes, qui nous coûte 1,8 milliard en coûts de santé au Québec? Je pense que oui. Il faut ouvrir les horizons en tant que parent, en tant qu'association sportive, et je suis convaincu en termes de milieu éducatif.
Bien, c'est sûr qu'un jeune... replaçons-nous au secondaire, OK? On fait... Par exemple, tu fais ta journée au complet au secondaire, tu pars le matin... Tu reviens tard le soir, comme une journée de travail normale. Un adolescent qui a accès à des jeux vidéo, à des vidéos en ligne, à toutes sortes de divertissements faciles, son premier réflexe hors de l'école, ça va vraiment pas être de bouger.
Surtout qu'avec les selles qui sont maintenant interdites entre les murs de l'école,
ben c'est ça. Ils veulent rattraper leur temps.
Mais ça leur a fait du bien en passant.
Ah oui, 100 %. Mais il y a un rôle aux parents, je suis d'accord, de faire bouger le jeune. Mais si le parent ne le fait pas, ben faut qu'on ait des moyens que le jeune bouge à un autre moment dans sa journée.
Vous en pensez quoi? 418-971-1021. Est-ce qu'on doit revoir notre façon de faire en tant que parent, en tant qu'association sportive? Est-ce qu'on doit revoir le modèle éducatif pour justement permettre à nos jeunes de bouger mieux et de bouger davantage? Moi, je pense que les trois ont une responsabilité. Puis que c'est le temps de prendre nos responsabilités parce que les statistiques sont très alarmantes, autant au niveau de la vie active chez nos adolescents qu'au niveau des blessures et de l'obésité. Dans un instant, on parle avec Rémi Villemur pour sa chronique bi-hebdomadaire. On va parler de l'Institut TECAR, un collège privé qui dépend des étudiants étrangers, mais qui les traite, et je vais prendre les paroles de Rémi comme de la marde. Puis, il a trouvé également le prochain grand projet nationalisme de Christine Fréchette. C'est à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
Disponible immédiatement. L'avenir est branché. Passez chez Sainte-Foy Mitsubishi ou Québec Mitsubishi.
Le biscuit sourire de Tim revient bientôt et chaque bouchée fait une vraie différence près de chez vous. Parce que 100 % du produit de la vente va à plus de 600 organismes locaux et groupes communautaires. Achetez vos biscuits sourire chez Tim du 27 avril au 3 mai dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité.
Salut, c'est Boucher.
Salut, c'est Lortie.
Lortie, une thermopompe, ça donne du froid l'été, du chaud l'hiver, c'est pas mal ça, non?
Ça procure surtout du confort quand c'est installé comme il faut.
Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire?
On vérifie la charge électrique, on optimise le débit d'air, on ajuste l'appareil selon les besoins et selon la réalité de la maison.
OK, parce qu'une thermopompe, c'est pas juste un climatiseur.
Ben non, c'est un système complet.
Fait que si c'est bien fait, ça change tout.
Thermopompe, énergie et optimisation.
C'est notre affaire.
Appelez-nous au 418-623-2323 ou faites une demande de service en ligne.
Boucher,
Lortie,
c'est réglé.
L'hiver a été tough, ben c'est la même chose pour votre voiture. Je pense que vous pouvez le constater si vous n'avez pas un stationnement intérieur. Oups, là, et là, ça a pogné dessus. Il y a des choses à enlever. Aviez-vous fait votre anti-rouille? T'sais, tellement de questions le fun à se poser. Mais au moins, on vous enlève des casse-têtes. Vous allez du côté de pièces d'auto-économique. Je les aime pour de vrai. Je vous en parle parce que je suis vendue pour de vrai. C'est la place parfaite pour la mise au point de votre véhicule. C'est le leader au Québec sur les pièces d'auto et accessoires. Que tu sois un débutant dans le zigonnage sur l'auto, que tu sois quelqu'un qui connaît ce que tu dois faire ou tu as juste envie d'aller voir si tu peux améliorer ton véhicule, pièces d'auto économiques, c'est la place pour trouver entre autres tes pneus et toutes les pièces d'auto au meilleur prix. Je te parle de pneus parce qu'on est pas mal là-dedans, mais je te parle aussi de promotion. 15 % de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max. Ça, c'est pour une forte teneur en carbone avec un freinage plus en douceur. 20 % de rabais aussi sur les plaquettes de frein Bosch. Tout est dans tout. Jusqu'à 20 % sur les essuie-glaces Raining. C'est mon conseil. Vraiment, un vrai conseil. Va te chercher ça. C'est la place où c'est pas cher. Puis en grande nouveauté, on a un magasin sur Charest. On vous accueille maintenant le samedi matin de 8h à midi sans faute. C'est la référence pièces d'auto économique. 8 magasins au Québec. Toutes les grandes marques, des pièces neuves, garanties, site transactionnel, pièceéconomique.com.
C'est l'événement 5 jours Lexus chez Boulevard Lexus. Obtenez le RZ350E signature 2026, location 24 mois avec acompte à 788 $ par mois et le NX350 Premium 2026, location 24 mois avec acompte à 638 $ par mois.
C'est la grande vente à Yoy chez Super C. On est complètement tombé sur la tête. Cette semaine, le rôti de bas de palette désossé est à 6,85 la livre ou 15,10 le kilo. Puis la sauce soya VH format sélectionné est à 2,22. Dormez pas au gaz avec des spéciaux de même. Ah, puis l'emballage de 4 canettes cocktail atypique sans alcool 355 ml est à 5,99. Pas besoin de capoter, là. Il y en a assez pour tout le monde. Hey, c'est super, super C. Valide jusqu'au 29 avril en magasin en ligne. Détails sur superc.ca.
Pour joindre la gang en ondes par téléphone 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 1021.
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes. On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beasts et Sugar Rush en plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné! Woohoo!
Sentir le plaisir, Playojo!
Chérie, oublie les lasagnes! Faut fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un set de jeux d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
Salut Karine!
Salut Nissan! Bienvenue à cette remise de prix
où nous soulignons l'excellence des véhicules.
Exact. Alors, le gagnant du meilleur achat selon le Consumer Guide pour une cinquième année est le Nissan Kicks.
Aussi applaudi pour son ingénierie japonaise et reconnu comme un leader en économie d'essence.
Bravo!
Bravo! C'est l'événement Mettez-nous au défi. Louez le Kicks S à partir de 379 $ par mois pendant 60 mois, l'équivalent de 88 $ par semaine. Jusqu'au 30 avril, sur approbation de crédit, prix à l'achat comptant de 30 076 $ des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Construction Paradis Leclerc recrute. Tu es charpentier menuisier, apprenti ou compagnon et tu cherches du changement? On t'offre des projets variés en résidentiel et commercial, de la charpente à la finition et au revêtement. On cherche des gens fiables, efficaces et fiers de leur travail pour joindre une équipe solide avec une excellente ambiance. Temps plein 40 heures, CCQ résidentiel et commercial avec possibilité d'avancement. On recherche aussi un technicien ou une technicienne comptable pour nos entreprises liées à la construction. Postulez dès maintenant. Construction Paradis Leclerc vient bâtir avec une équipe qui a de l'ambition.
Pierre, tant qu'à rénover, on met-tu des thermostats intelligents?
Ben non, notre budget est trop serré.
Mais ils sont 0 $ puis l'installation est gratuite.
Ah ben oui, on fait ça.
En ce moment, Hydro-Québec offre les thermostats intelligents à 0 $ et l'installation gratuite. Achat en ligne, détail à hydroquebec.com.
L'incontournable pour la meilleure crème glacée, c'est Fromagerie Victoria. Chaque semaine, découvrez une saveur surprise à petit prix. Il y a tellement de choix que vous voudrez y retourner tout l'été. Crème glacée molle, enrobage, sorbet et plus encore. Fromagerie Victoria, votre destination glacée.
Bonjour, vous cherchez un véhicule en particulier?
Je regarde pour un véhicule sport avec beaucoup d'espace intérieur, surtout pour les passagers.
Ah, facile! Kia K4 Hatchback.
OK, mais la polyvalence pour la ville, plein de technologies?
Vous pourriez essayer le Kia Seltos?
Puis si je veux aller un peu plus gros, comme en vue d'une famille?
Peut-être un Kia Sportage.
Hey, vous avez vraiment une Kia pour tout?
Pas mal, oui.
Trouvez la Kia qui vous convient et profitez d'offres exceptionnelles à la location et au financement ce printemps. Visitez kia.ca pour les détails.
Kia, du mouvement vient l'inspiration.
L'actualité présentée par MRL Courtier Hypothécaire. Dans un marché en constante évolution, assurez-vous d'avoir les meilleures options. Avant de signer, comparez pour sauver temps.
À Boulevard 1021, avec Jeff Fortin et Pascal Cévé. Jusqu'à 14h, on en jase.
13h18, émission d'En Jase, ton émission d'actualité du midi sur les ondes de Boulevard 102.1. Tu peux l'écouter via ton haut-parleur intelligent en disant « Écoutez BLVD 102.1 » via ton application BLVD 102.1 que tu télécharges gratuitement sur App Store ou Google Play Store ou via ta web radio au blvd.fm. À la météo, 9 degrés généralement nuageux pour aujourd'hui, 9 degrés demain aussi, alternance de soleil et nuages. Et ce week-end, 11 degrés et 13 degrés avec alternance de soleil et nuages. Donc, les températures qui augmentent. Série Ligue nationale de hockey. Flyers de Philadelphie ont pris les devants 3-0 hier dans leur série contre les Penguins de Pittsburgh grâce à une victoire de 5-2 à domicile. Les Stars ont battu le Wild du Minnesota 4-3 en deuxième prolongation grâce à un but de l'excellent Wyatt Johnson, son deuxième des séries. Et les Ducks d'Anaheim ont créé l'égalité 1-1 dans la série contre les Oilers d'Edmonton. Connor McDavid qui a été blanchi de la feuille de pointage pour un deuxième match consécutif. On parle des matchs de ce soir et du repêchage de la NFL en fin d'émission avec Alex Laramé. C'est maintenant l'heure d'aller rejoindre l'animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin de 8h à 9h d'une émission d'actualité. Chroniqueur deux fois par semaine avec nous, Rémi Villemur. Rémi, comment vas-tu?
Ah, il fait soleil, donc je vais bien.
Excellent. Rémi, je sais que tu habites dans l'est de la ville, donc Christine Fréchette va commencer d'ici 10 minutes un important point de presse, une conférence de presse. On devrait annoncer là, qu'on passe enfin au PQI pour l'hôpital Rosemont-Maisonneuve. Ça va faire du bien dans votre communauté.
Oui, bien, l'Est de Montréal, c'est pour ceux qui ne passent pas souvent par Montréal, c'est vraiment l'endroit qui manque le plus d'amour.
Ah, clairement. Oh, Rémi semble avoir bloqué comme la dernière fois. Pascal, penses-tu qu'on peut l'appeler? Pendant ce temps-là, je vais vous mentionner justement que les matchs de la Ligue nationale de hockey de ce soir vont opposer les Sabres de Buffalo aux Bruins de Boston. C'est 1-1 dans la série entre les Sabres et les Bruins. Donc, victoire des Bruins 4-2 dans le dernier match. Les Bruins qui dominent pas mal cette série-là jusqu'à présent. Ils ont échappé le premier match en fin de troisième période. Les Sénateurs d'Ottawa vont tenter de gagner leur premier match dans leur série face aux Hurricanes de la Caroline. C'est au domicile des Sénateurs. C'est à 19h30. Donc, on va surveiller le tout. Victoire en deuxième période de prolongation des Hurricanes lors du deuxième match. Et les Kings de Los Angeles qui ont passé très près de battre l'Avalanche lors des deux premiers matchs de la série. C'est une surprise, ça. Deux défaites de 2-1, dont une en prolongation. Eh bien, les Kings de Los Angeles reçoivent l'Avalanche du Colorado. C'est plus tard, en soirée. C'est à 22h. Rémi Villemur est au bout du fil. Ouais, Rémi, on parlait, on disait que l'Est de Montréal, c'est vraiment l'enfant pauvre de la province de Québec, là.
Oui, puis j'invite les gens de Québec qui vont repasser par Montréal bientôt de porter attention parce que normalement, vous arrivez par l'est de la ville, puis vous voyez là, ce quartier industriel-là, c'est gros, c'est grand, mais il n'y a rien. Il y a juste de la poussière, il y a juste la perte de vue des espèces de cheminées, des bâtiments abandonnés. Puis là, si vous regardez à terre, c'est de la vitre cassée. C'est vraiment dommage parce que Montréal a la chance d'être assez grande comme ville. Quand moi, je m'en vais à Paris bientôt, puis Paris, en superficie, c'est plus petit que Montréal. Là. L'île de Montréal, c'est grand, grand, grand. Donc, il y a de la possibilité de faire du beau quand on a du territoire. Quand on n'a pas beaucoup de territoire, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Mais Montréal, on a la possibilité de partir d'importants chantiers de beauté. Puis je pense que Montréal aurait besoin, dans son est, en tout cas, d'un petit bec sur la joue.
T'as entièrement raison. Hey Rémi, parle-moi donc de ce collège privé-là à Montréal qui fait la une là, de la presse, c'est-à-dire l'Institut Técart. Je reprends tes propres mots. C'est quoi? Ils ont besoin d'étudiants étrangers, mais ils les traitent comme de la marde?
Ah, écoute, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'espère que des journalistes vont se pencher sur le cas de l'Institut Técart. C'est un collège privé qui dépendent à ce jour presque entièrement des étudiants étrangers. C'est ça leur modèle d'affaires. Donc, ils chargent très, très cher des programmes qui sont pas des programmes qui sont courus là, par les gens qui sont nés au Québec. Je te dirais que quand tu t'en vas à l'Institut Técart, généralement, c'est pas ton premier choix. Là. Mais on a des étudiants étrangers qui, eux, parce que la perspective de l'étranger en soi, c'est suffisant au niveau de la conscience, alors se disent, ben, je suis prêt à payer plus cher pour aller étudier au Québec, à Montréal, dans cette grande belle ville. Et là, ils arrivent ici. Et on a des témoignages ce matin dans la presse d'étudiants qui disent, écoute, je songe même à me suicider, là, parce que moi, j'ai traversé l'océan, je suis le rêve de mes parents, et on ferme des programmes, on me dit que j'ai échoué des cours, c'est une erreur administrative. L'école est sous enquête du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils ont admis eux-mêmes qu'il y avait des irrégularités, qu'ils allaient collaborer, mais bon, enfin. Et donc, on a toutes sortes d'irrégularités, des programmes qui ferment, on déplace les étudiants sans leur consentement d'un programme à l'autre. Finalement, c'est un foutoir. Et ça fait tellement des années que ça dure que je suis obligé de dire que, tu sais, on donne d'habitude la première chance aux coureurs. On dit, bon, c'est peut-être un accident, il ne faudrait pas tirer des conclusions. Mais avec l'Institut Técart, là, bien franchement, là, je pense qu'on peut en tirer des conclusions. Là. On va attendre l'enquête quand même, mais je soupçonne vraiment sérieusement cette école-là de se foutre complètement des étudiants qu'elle admet. Elle charge cher, elle les admet, puis après elle se dit ils sont vulnérables, ils sont à la merci, ils ont pas vraiment d'entourage ici, fait qu'on peut être plus slow, on peut être plus lent quand vient le temps de répondre à leurs demandes, et voici ce que ça donne. Honnêtement, là, allez lire ce dossier-là parce que c'est mérité.
Dans le fond, on se met l'argent dans les poches des étudiants étrangers, puis après ça, on leur offre pas de service.
Ben, on leur offre des services, mais quand les étudiants disent écoutez, j'ai des questions, ben on n'est pas vraiment bien, on n'est pas réceptif, ouais. On les accompagne mal parce qu'on sait qu'ils sont à la merci. Ils sont tout seuls ici, d'accord? Et moi, je me méfie depuis des années, c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, je me méfie depuis des années des gens qui disent oui, il faut plus d'immigration, oui, il faut plus d'immigration. Mais qui ont oublié la responsabilité quand même première de s'en occuper de ces gens-là. On a beaucoup ri du slogan de François Legault quand il avait dit « on en accueille moins pour en prendre soin ». Vous vous rappelez de ça?
Ben oui, mais absolument.
Ben, ce slogan-là, c'était très humaniste, finalement, comme touche. Parce que c'était de se dire, on n'a pas une capacité d'accueil qui nous permet de s'occuper bien de tout le monde. Alors, on va en accueillir moins. Et ceux qui se sont présentés aux barricades, là, parmi les premières, ben, ce sont les écoles, ce sont les collèges privés, ce sont les universités qui dépendent souvent de l'immigration. Qui disent, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. Ouais, mais ça vient avec une responsabilité, ça. C'est de s'occuper de ces gens-là. C'est de s'occuper de gens qui sont vulnérables, qui sont ici, puis qui n'ont pas d'entourage, qui ont souvent pas d'amis, qui parlent souvent pas bien l'une des deux langues officielles. Donc, c'est une responsabilité. Des fois, finalement, l'amour et l'amitié viennent de ceux qui ont un regard peut-être un peu plus critique, des fois, en matière d'immigration. Ce sont peut-être eux, finalement, qui sont prêts à en accueillir moins, mais mieux. Hein? Bon, alors, on a la preuve ce matin avec cette étude.
Puis il y a le point aussi du fait d'être capable de les intégrer socialement. On veut pas qu'ils se ramassent ne serait-ce qu'au même endroit puis qu'ils continuent à perdurer une seule culture. On veut un mélange des cultures. C'est une richesse qu'on peut avoir au Québec aussi, là.
Ben oui, ben regardez, il y a ce matin aussi, ça c'est toujours à Montréal, il y a un quartier qui s'appelle Parc Extension, c'est un des quartiers les plus multiethniques au Canada. Si c'est pas le quartier le plus multiethnique au Canada, je sais qu'il se méritait ce titre-là il y a quelques années. Et dans ce quartier-là, on a accueilli tellement de gens que là, il n'y a plus de place dans les écoles pour une cohorte de 600 jeunes enfants qui arrivent à l'âge d'entrée à l'école. Et là, on interroge des gens du milieu communautaire pour leur dire c'est quoi la solution. Puis ça leur vient jamais à l'esprit de dire en accueillir moins. Ouais. Parce qu'eux autres, ils ont l'impression que s'ils disaient ça, ils seraient en train d'être critiques en matière des immigrants. Ben non! En accueillir moins, ça voudrait dire donner la chance à ces jeunes-là qui sont déjà là d'avoir une place à l'école. C'est ça aussi, des fois, le courage politique de dire les choses. Mais on dirait qu'on se classe forcément du côté du mal lorsqu'on dit qu'en accueillir moins, même si ça serait peut-être mieux pour eux, ben c'est une option.
Rémi Villemur, on saute sur les nationalismes à l'heure actuelle. PSPP a dit aux gens qui étaient déçus que Bernard Drainville ait perdu, venez-vous-en PQ. Éric Duhem a dit non, c'est l'autonomie du Québec, les nationalistes. Venez-vous-en Parti conservateur du Québec. Puis Charles Millard a essayé maladroitement de les attirer avec la clause dérogatoire sur la langue officielle, la loi 96. Mais là, dis-moi donc, tu m'as dit, j'ai trouvé le prochain grand projet nationaliste de Christine Fréchette parce qu'elle veut les garder à la CAQ. Quel sera ce grand projet?
Bien, on apprenait hier que les budgets ont chuté de 20 % en 2 ans dans la production télévisuelle. Donc, on sait au Québec, on fait des séries. On fait même des Super Bowls tous les soirs. Là, tous les soirs, en semaine, il y a une émission qui est regardée entre 1 et 2 millions de personnes au Québec sur un bassin d'à peu près 8 à 9 millions de francophones. 8 millions de francophones, vous enlevez les enfants là-dedans, vous avez des scores qui sont semblables au Super Bowl. Là, hein? 1 million de téléspectateurs sur quoi? 3-4 millions de personnes qui pourraient finalement, possiblement, la regarder, cette série-là. Et on fait ça avec pas d'argent. On n'a pas d'argent. On réussit à accomplir l'impossible avec des moyens qui sont presque risibles. Et moi, je dis donc à la CAQ, investis en culture, investis dans la télévision québécoise pour que ces séries-là soient plus belles à l'œil et puisse être exporté à l'étranger, parce qu'on est capable de, on est des artisans, alors qu'on pourrait être des artistes. Mais ça prendrait de l'argent, ça, parce qu'il y a des limites à travailler avec des moyens du bord. Les comédiens, ils veulent des augmentations. L'UDA est là pour, puis c'est correct, ils sont là pour demander que les comédiens les plus connus soient mieux payés. Mais à un moment donné, on a moins de techniciens sur le plateau, des moins bons décors, on tourne dans des décors en carton, et à l'œil, ça devient pesant, et on se tourne vers Netflix et ces séries qui sont produites avec des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Donc, on a ce talent-là scénaristique, ce talent-là. Overall, honnêtement, en matière de télévision, moi, je pense que ça prend de l'amour et ça pourrait venir de la CAQ. Ça pourrait venir du gouvernement de Christine Fréchette en matière de culture. Ils ont un excellent ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, et ça sera un très haut geste nationaliste.
Rémi Villemur, je suis très d'accord avec toi sur ce point. Puis, sais-tu quoi? Je pense que tu vas avoir le résultat escompté parce que Mathieu Lacombe prépare de quoi de très intéressant à l'heure actuelle en culture. C'est clair, c'est pour ça que Christine Fréchette l'a laissé. Il va avoir un grand coup qui va se donner là à la veille des élections. Toujours un bonheur de te parler, Rémi. On se parle mardi prochain. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente émission ce soir, ainsi que samedi matin.
Bye-bye à vous deux.
Salut mon ami. Rémi Villemur, chroniqueur avec nous les mardis et jeudis. Un homme au franc-parler qui a toujours des bonnes idées. Je trouve que c'est une bonne idée, ceci, d'avoir justement visé le monde télévisuel du côté de la CAQ. Les nids de poule, on en a parlé à Québec, mais on va en parler à la grandeur de la province avec Gabriel Giguère, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal, dans un court instant à Boulevard 101, l'émission d'En Jase.
Soyons francs. Dans votre organisation, qui fait en sorte que tout fonctionne vraiment? Les réunions planifiées, les échéanciers respectés, très souvent, ce sont vos adjointes et adjoints administratifs. Depuis 40 ans, l'APSAC soutient leur développement professionnel. Inscrivez-les au congrès annuel de l'APSAC, 3 jours inspirants avec 7 conférences, 4 ateliers pratiques et du réseautage. Et en devenant membre, ils auront accès à plus de 120 heures de formation gratuite. Investissez dans ceux et celles qui soutiennent votre succès. APSAC.ca.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlesbourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Pierre, tant qu'à rénover, on met-tu des thermostats intelligents?
Ben non, notre budget est trop serré.
Mais ils sont 0$ puis l'installation est gratuite.
Ah ben oui, on fait ça.
En ce moment, Hydro-Québec offre les thermostats intelligents à 0$ et l'installation gratuite. Achat en ligne, détail à hydroquebec.com.
Avant d'appeler le garagiste puis de signer une facture salée, fais un arrêt stratégique chez Pièces d'Auto Extra. Les pièces sont jusqu'à 2 fois moins chères qu'ailleurs. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et la nouvelle succursale de Beauport. Pièces-auto-extra.com.
Allô, c'est Marie de l'Entrepôt de la Réno. Le printemps, c'est fait pour changer, même vos planchers. Nos planchers de vinyle et flottants sont à partir de 1,49 $ le pied carré. L'Entrepôt de la Réno, 9030 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. Entrepôtdelareno.com.
Voici le portrait. Tu veux t'acheter une voiture, t'en veux pas de neuve, et tu veux faire ça simple. Ça l'est avec Kia Beauport. On a aussi de l'occasion. On fait partie du portrait. Rejoins la famille. Magazine au kiabeauport.com.
Le printemps, c'est le moment parfait pour améliorer votre confort. Jusqu'au 30 avril, profitez de jusqu'à 1 000 $ de rabais chez Enviro-Confort. Ajoutez à ça les remises manufacturières et les subventions disponibles. Thermopompe, chauffage, climatisation. Économisez maintenant. Soyez prêts pour l'été avec Enviro-Confort.
Préautorisation, renouvellement ou refinancement hypothécaire? Dans le marché actuel, un bon choix, ça se prépare. Avec Axia, on évalue vos options pour que vous avanciez avec confiance. Avant de signer, visitez axiahypothèque.ca. Axia, la valeur d'un bon choix.
Le hockey des séries, c'est vraiment le fun. Mais le hockey des séries chez Québec Brou, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. En plus, 17 pour 10$ les soirs de match, Québec Brou, pas pire, hein?
Saviez-vous que le Mitsubishi Outlander PHEV est l'hybride rechargeable le plus vendu au pays? En 2026, l'Outlander PHEV domine la compétition grâce à la plus grosse batterie de sa catégorie, offrant plus d'autonomie électrique pour vos déplacements et une puissance accrue. C'est le seul à vous offrir 7 places de série, la recharge rapide et la meilleure garantie de 10 ans ou 160 000 km. Profitez des subventions gouvernementales et de nos unités disponibles immédiatement. L'avenir est branché. Passez chez Sainte-Foy Mitsubishi ou Québec Mitsubishi.
Ce segment d'émission est présenté par 888casino.net. Plongez dans 888casino.net. C'est fait pour jouer. 19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de manière...
Du jour, ce qui se passe dans notre ville. Tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
13h35 sur les ondes de Boulevard 102.1. Je vous le rappelle, 418-971-1021 pour interagir avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On lit toujours quelques textos en ondes également. Les gros dossiers, bien aujourd'hui, les gros dossiers, c'était les nids de poules. On en a parlé pour la ville de Québec. On va en parler à l'échelle de la province. Mais avant cela, c'est confirmé, Pascal CV. Christine Fréchette a investi plusieurs millions de dollars dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
700 millions de dollars pour le futur hôpital, donc des travaux d'infrastructure qui vont être lancés cette année. C'est assez rapide pour préparer le méga chantier pour ce futur hôpital universitaire-là, Maisonneuve-Rosemont. On peut pas dire que c'était dans le gravy, on était vraiment rendu sur l'os. Il fallait procéder à modernisation-là, qu'on dit, mais même l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve de Rosemont. Puis la première ministre, Christine Fréchette, et la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, devaient confirmer ça, devaient confirmer 700 millions, mais tu sais, c'est coulé partout, là. Puis c'est une annonce aussi qui prévoit l'acquisition de 3 terrains à proximité de l'hôpital et la construction d'un second stationnement étagé de 1000 places. Pour un total de facture de 400 millions de dollars. C'est quand même intense, puis on devrait avoir les plans.
Exactement. Donc, très, très bonne nouvelle pour les habitants de Montréal.
Une moins bonne nouvelle, c'est un réseau qui s'appelle le 764. C'est un phénomène assez sombre. Rappelle-toi, on avait déjà parlé d'un criminel qui avait, dans le dark web, un genre de site transactionnel où on trouvait plein de ouais. choses. Puis c'était super néfaste. Ce gars-là, il est mort en Thaïlande. C'est encore nébuleux. C'est un gars de Trois-Rivières. Bon, on passe à un autre côté sombre d'Internet. C'est un groupe extrémiste, violent, nihiliste, caractérisé par la haine profonde de la race humaine, donc on va loin. Et c'est sous la plume de Judith, qui est chroniqueur au Soleil, chroniqueuse judiciaire, journaliste judiciaire, Judith Desmeul, qui passe dans les studios. Elle est passée hier avec l'équipe, puis elle a dit que le danger, c'est la normalisation de la violence pour eux. Le seul chemin possible, c'est le plus profond possible et le plus violent possible. C'est un groupe de terroristes, puis l'évolution est relativement récente, là. On encourage la violence dans toutes ses formes. Les membres veulent plus vivre dans la société, donc ils ont décidé qu'ils la désorganisent, mais ils n'envisagent aucun idéal différent. Donc, ils veulent juste faire l'apocalypse, là, puis de la violence. Ouais. On dirait qu'on est dans un scénario de film.
Vraiment.
Mais là, c'est vrai. Puis, pour eux, c'est de corrompre la jeunesse à son plus jeune âge. Il y a Mathieu Roussel, qui est superviseur analyste en renseignement criminel pour la GRC, qui a dit que l'objectif, c'est vraiment de gagner en notoriété en étant un abuseur par la violence, puis le faire auprès des jeunes, des adolescents, parfois même des enfants qui sont approchés par ces abuseurs-là, sur plein de plateformes. Vous les connaissez, Discord, Telegram, Roblox, Minecraft, Twitch, Stream.
Vraiment, c'est trop jeune.
Alors, on les amène à commettre des actes de violence pour aucune raison autre que du clout. C'est une monnaie sociale sur les réseaux sociaux. Donc, ils le font pour la notoriété en ligne, le pouvoir. Amalgame de plusieurs personnes qui ont cette idée noire-là. Puis, un homme de Québec qui a été arrêté hier pour avoir sciemment participé à une activité terroriste du groupe qu'on appelle le 764, qui s'appelle Jeffrey Roussel, 26 ans. Et il aurait notamment encouragé et publié plusieurs contenus graphiques violents hautement perturbants.
À lire dans Le Soleil, excellent texte de Judith Desmeul à cet effet. Et elle était dans l'émission Gravel dans le retour hier. C'est disponible sur le blvd.fm.
Je rappelle la fermeture de 2 voies sur 3 sur le pont Pierre-Laporte. Ça va débuter à partir de 22h maintenant parce qu'il y a eu une congestion survenue mardi soir dernier. Puis c'est pas juste une congestion. C'est plein d'automobilistes qui se sont retrouvés coincés dans un grand embouteillage. Puis ça, c'est peut-être vu la fin du match du Canadien, mais situation aggravée par la fermeture simultanée du pont de Québec. Là, on s'est dit non. Bon, c'était de 21h à 5h30, ça va être à partir de 22h. Puis, ça m'amène à te parler des nids de poules.
Nombre
de réclamations au ministère des Transports pour des dommages liés à des nids de poules qui ont atteint des sommets au Québec. Le Journal de Québec rapporte 2,2 millions de dollars qui ont été réclamés au ministère depuis le début de l'année 2025. Puis, pour Québec, ici, là, la ville, les données de Radio-Canada, c'est pour 2025, 469 réclamations d'automobilistes.
Et pour parler des nids de poules, il est avec nous, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giga. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Gab, ça n'a plus de sens, là. À un moment donné, il faut que la joke arrête, il faut s'occuper de nos routes.
Ça n'a plus de sens. Je pense qu'il n'y a personne qui conduit une voiture. Même si vous êtes en autobus, vous l'avez senti le gros bang à cause des nids de poules. Là, vous en évitez un, deux, trois, puis le quatrième vous sacrez parce que vous ne l'avez pas vu. Ça n'a pas d'allure. Puis les chiffres nous le démontrent déjà. Là, on est presque à 700 réclamations auprès du ministère des Transports. C'est déjà plus qu'en 2024. Donc, on voit pour toute l'année. Donc, on voit vraiment que ça n'a pas d'allure. Puis il va falloir que le gouvernement agisse parce que dans l'état actuel des routes, ça ne fonctionne pas. Puis on l'a vu hein, dans le cadre du PQI, donc des infrastructures de l'état des infrastructures du Québec lors du budget du mois dernier, ce qu'on voyait, c'est quand même une détérioration très rapide de la chaussée. Donc, ça dépasse largement le caractère naturel de la détérioration. Puis ça, ben, c'est ce qui donne lieu notamment à des nids de poules qui ressemblent plus à des nids d'autruche.
Exactement. Et là, Gab, les grands penseurs disent toujours que ça prend plus d'argent, mais je te fais entendre Nicolas Ryan sur nos ondes ce matin, où il tisse un comparatif des coûts par automobiliste qu'on investit dans nos routes.
Le coût des mauvaises routes, c'était 126 $ par année par véhicule, la moyenne canadienne. Au Québec, 258 $. Donc, plus du double de la moyenne canadienne. Et quand on regarde nos collègues de l'Ontario, juste à côté, là, les gens d'Ontario, c'est 88 $ par année par voiture que ça leur coûtait. Donc, vraiment, franchement, beaucoup moins que nous.
Bon, là, t'as bien beau me dire, hein, on a plus de kilomètres au Québec, puis on est moins de monde qu'en Ontario. Mais là, à un moment donné, quand c'est 260 puis 80 $, là, on peut-tu faire mieux, s'il vous plaît?
Ouais, le stretch est difficile à justifier, là, puis il va falloir faire mieux. Je pense, tu sais, on le voit aussi, c'est quand même plus que 30 000 km de réseau autoroutier. Fait que ce que ça veut dire essentiellement, c'est que le gouvernement du Québec en a beaucoup à gérer, mais en parallèle de ça, ça se détériore rapidement. Donc là, le gouvernement du Québec a juste pas la capacité. Puis la question de l'argent est quand même, elle revient souvent, je pense que tu l'as vu, JF, là, mais dans les dernières semaines, on parlait de péage, tout ça, on veut l'État va avoir plus d'argent, mais même si l'État a plus d'argent, je fais le pari qu'en ayant des péages, si c'est l'État qui gère ça, on va encore avoir des mauvaises routes, mais collectivement, on va beaucoup plus payer. Donc, il faut s'assurer que ce ne soit pas l'État qui prenne ça en charge, puis que là où ça peut être pris en charge par le secteur privé, ce soit pris en charge par le secteur privé. Je pense que les autoroutes, c'est un super bon exemple, parce que les autoroutes, vous avez beaucoup de passages, ça se détériore, mais il peut y avoir de l'appétit du secteur privé, donc une concession autoroutière comme on voit en France, comme on voit sur la 25, comme on voit sur la 30, ça permettrait justement d'avoir un bon entretien routier. Oui, ça va coûter de l'argent par automobiliste, mais en final, ça va être bien entretenu, puis ça sera certainement pas mal entretenu comme on voit aujourd'hui par le ministère des Transports, essentiellement.
Qu'est-ce qui fait le plus mal pour nos routes, Gabriel Giguère? Est-ce que c'est la règle du plus bas soumissionnaire ou c'est le fait qu'on fait juste pas suivre le plan d'entretien normal requis?
Mais moi, je pense qu'il y a eu vraiment du laisser-aller au courant des dernières décennies. Quand on regarde les chiffres, le maintien d'actifs n'a pas été priorisé. Fait que c'est un peu de dire, ben, on va continuer de construire des nouvelles infrastructures, puis notamment, il y a beaucoup de dépenses aujourd'hui en transport collectif, mais cet argent-là, il pourrait servir dans le maintien d'actifs. On le sait que quand on pense à nos routes, l'immense majorité de l'argent qui va dans les routes, c'est pour de l'entretien. Mais il y a juste peut-être pas assez d'argent qui va dans le secteur routier, il y en a d'autres qui vont ailleurs. Fait que concrètement, il y a eu cette priorisation de construire des nouvelles infrastructures plutôt que le maintien d'actifs. Puis effectivement, là, il y a tout ça. Il y a la question du plus bas soumissionnaire. Est-ce qu'il y a assez de concurrence dans des travaux routiers? Évidemment, quand c'est des centaines de millions de dollars, il y en a de la concurrence. Mais pour les plus petits travaux routiers, est-ce qu'on a un mécanisme au Québec qui réduit la concurrence par région administrative? Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à ça au sein du gouvernement du Québec et plus largement, encore une fois, là, la question des concessions autoroutières. Je pense qu'il y a plusieurs politiques publiques qui doivent être mobilisées aujourd'hui parce que je pense que c'est un aveu d'échec, là, aujourd'hui. Cette année, c'est extrêmement clair. Non seulement quand on analyse les chiffres, c'est clair, mais quand tu sors dans la rue avec ton char, ça fait bang, c'est très, très clair aussi, même plus que les chiffres.
8 véhicules, il y a deux semaines, en sortie du pont Pierre-Laporte, qui ont fait une crevaison à cause d'un nid de poule. 8 au même moment, combien en une journée, combien dans le mois?
C'est incroyable. Puis là, c'est rare que je fais ça, mais il faut que je vous raconte une petite anecdote quand même.
Hey, let's go, vas-y.
Je m'en vais à Montréal, vous savez, je travaille à Montréal, je prends la voiture, rue Notre-Dame, bref, le trafic de fou. Je me dis, mais c'est incroyable, pourquoi mon GPS me dit pas qu'il y a du trafic pour finalement, ça me prend 30 minutes de plus, j'arrive et le sol est pratiquement affaissé à un moment où tout le monde doit freiner parce que sinon, ton char, c'est pas tes pneus qui vont péter, c'est ta carrosserie. Tu te dis, mais voyons donc, est-ce que c'est normal? Donc, oui, il y a l'analyse des chiffres, mais le réel, là, juste te promener en char, tu le vois tout de suite, il y a des trous partout, ça fonctionne pas. Puis un des éléments très intéressants dans un article de ce matin, justement, sur ce sujet-là, c'est de dire, ben, les automobilistes, puis ça, je les comprends tellement, vont dire, ben, voyons donc, moi, je paye mes taxes, moi, je prends mon char, puis j'ai une crevaison parce que ma municipalité, parce que le gouvernement du Québec fait pas sa job. Il y a des nids de poules quand il devrait pas en avoir, donc, à 90% à peu près, sont d'accord pour que ce soit le gouvernement qui va payer pour la crevaison. Seule chose que je dis, c'est faites attention, parce que c'est vous qui allez financer les crevaisons de vos voisins. Des fois, on le réalise pas nécessairement sur le coup, mais l'argent gouvernemental, ça existe pas. Non. C'est l'argent des contribuables qui est redistribué, donc à garder en tête quand même.
Ouais, à garder en tête, parce que c'est peut-être pas la solution de dire « OK, toutes les crevaisons, faudrait que le gouvernement paye », parce que là, en bout de ligne, ben, ils n'en ont pas d'argent pour ça. Gabriel Giguère, c'est toujours un bonheur de te parler. On se parle lundi, vous allez avoir un gros dossier à l'Institut économique de Montréal que j'ai entendu dire.
Gros dossier sur le gaz naturel à suivre.
Lundi, 13h sur les ondes de Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. Hey, tant qu'à t'avoir, Gab, je sais que tu checkes l'hockey, le Canadien gagne ça en fin de semaine?
Ben là, il n'y a pas le choix.
Il n'y a pas le choix.
Je pense que le Québec va vibrer autour du Canadien de Montréal qui va gagner en fin de semaine, qui va gagner vendredi. Go, Habs, go!
Excellent. Pour en parler, justement, après cette courte pause, ce sera Alex Laramon. On va parler des matchs de ce soir parce qu'on va garder Alex aussi pour demain pour nous parler de cette rencontre. Canadien Tampa Bay de vendredi. Gabriel Giguère, salut! Passe un beau week-end!
Salut!
Salut! Bye, bye. Alex Laramon s'amène à On en jase sur Boulevard 102.1. 13h51 minutes, l'émission On en jase qui tire à sa fin. Le retour de Denis Gravel va suivre dans l'instant, mais pas de Denis avec Audrey Véro-Bergeron et également Nathan Meilleur. Un gros line-up, notamment Éric Sauvé pour de la politique internationale. Ça recommence à brasser dans le détroit d'Ormuz entre Donald Trump et l'Iran. On va le rejoindre au bout du fil parce que c'est la folie furieuse en province. C'est les séries de la Ligue nationale. C'est le Canadien contre le Lightning de Tampa Bay. Alex Laramé, comment vas-tu?
En pleine forme, en cette belle journée ensoleillée. Du moins, du côté de Montréal, nous, il fait soleil.
Ouais, nous autres aussi, le soleil commence à sortir ici à Québec. Alex, qu'est-ce que ça dit dans les médias montréalais? Est-ce que Kirby Dack va être laissé de côté?
Ben, écoute, je pense que l'opinion, je dirais majoritaire, là, c'est que oui, là, Kirby Dack, malheureusement, il a perdu sa place dans l'alignement là avec sa performance, disons, discutable dans le dernier match. Par exemple, j'aime la polarisation. Il y en a beaucoup qui parlent du nom de Veleno, comme quoi on devrait amener Veleno dans l'alignement. Personnellement, moi, j'irais plus du côté Gallagher.
Oh! Je sais pas, toi, ben non, moi, j'irais avec Veleno, gagne des mises au jeu, joue sur le désavantage numérique plus physique que Gallagher.
Ouais, mais Gallagher, tu sais, c'est le vétéran de l'équipe, premier match à domicile, c'est pour amener peut-être l'émotion au sein des joueurs du Canadien. Moi, je pense que Gallagher pourrait avoir son utilité de ce côté-là. Surtout quand il est reposé, Gallagher, il sort toujours fort. Là. On a vu dans le dernier match, il y avait eu quelques jours de repos. Mais je pense que les deux options sont meilleures que Kirby Dack. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute.
C'est clair. Ça va être intéressant de surveiller l'entraînement matinal. Demain, ça va être un entraînement matinal surveillé comme il n'y en a jamais eu à Montréal, je pense. Hey Alex, ce soir, trois matchs dans la Ligue nationale de hockey. Les Sabres de Buffalo visitent les Bruins de Boston. C'est un dans la série. Les Bruins ont mieux joué, je trouve, les deux matchs que les Sabres. Va falloir que Buffalo se mette en mode série.
Ben ouais, parce qu'il faut dire que Buffalo, même dans le premier match, qu'ils ont gagné. Ils sont sortis en fin de troisième période. Ils ont marqué 4 buts sans réplique. Ils sont sortis de là avec la victoire. Mais le match, en général, avait été dominé là, par les Bruins. Là, on s'en va à Boston. Le TD Garden en série, jamais facile à aller jouer là-bas. Fait que selon moi, c'est là qu'on va voir la vraie valeur là, de cette équipe de Buffalo. Oui, on a été bon en saison régulière, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire en série? Moi, j'ai pris Boston en 6, puis je pense que ce soir, Boston va sortir très fort, puis va sortir avec la victoire.
Ouais, j'avais pris Buffalo en 5, ça prendrait une victoire des Sabres pour moi ce soir. Hurricane Sénateur, les Sénateurs vont tenter enfin de remporter un match dans cette série-là. On n'a pas le choix du côté des Sénateurs. Il faut mettre davantage de pression sur la défensive des Hurricanes. Je trouve que les Sénateurs jouent haut du zone. Je comprends pas vraiment la stratégie à l'heure actuelle?
Non, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions là, sur le plan de match de Travis Green. Mais il faut donner quand même ce qui revient à César. Là, je veux dire, les Hurricanes, c'est tout un club de hockey. On est rapide, on tire au filet. Le plan de match de Rod Brind'Amour, on est habitué. Ça fait des années qu'on le joue. C'est une équipe qui est bien rodée. Puis là, en plus, Frederick Anderson sort un début de série complètement exceptionnel. Ça va être un club difficile à battre. Je veux dire, même si les Sénateurs allaient chercher la victoire ce soir, selon moi, ils n'ont pas de chance dans cette série-là. Là, c'est plate, mais les Hurricanes sont trop forts.
Je suis très d'accord. L'Avalanche contre les Kings, est-ce que ça sera enfin l'explosion offensive pour l'Avalanche qui ont gagné 2-1 malgré qu'ils mènent 2-0 dans la série? Ou les Kings vont continuer à garder ça très serré?
Ben, on l'attendait match 2, là, on s'en parlait, là. Moi, j'étais sûr que là, on allait exploser, là, deuxième match à domicile.
Comme hier, on attendait des points de Connor McDavid qui ne sont pas venus.
Ouais, c'est ça, tu sais, les gros noms ont de la misère à se faire aller, même à Montréal. Suzuki, Caulfield, on les attend. Mais selon moi, c'est une bombe à retardement, là, l'avalanche. Là, je veux dire, éventuellement, on va réussir à percer là, la muraille de la défense des Kings. Là, je pense que oui, ce soir, ça pourrait débloquer. Là.
Ouais, je suis d'accord avec toi. En terminant, repêchage de la NFL ce soir, on s'attend à quoi?
Ben, écoute, je pense que tout le monde, il n'y aura pas de surprise pour le numéro 1. Là, ça va être Mendoza qui va sortir avec les Raiders. Moi, de ce que j'ai compris, par exemple, ça n'a pas l'air d'être le draft qui attire le plus de foule. Ça ne semble pas être une année avec beaucoup de superstars, tu sais, surtout à l'attaque. Là, il y a pas beaucoup de gros noms. Mais c'est sûr que c'est toujours un spectacle, le draft de la NFL. Là, lorsqu'on compare ça à la NHL, je veux dire, la NHL, ça fait pitié ce qu'on fait. Là. Fait que ça va être quand même un gros show. Moi, je suis un partisan des Ravens, tu le sais. Là, fait que peut-être aller chercher de l'aide au niveau de la ligne offensive. Sinon, probablement qu'on va repêcher quelqu'un en défense. Mais ouais, ça va être quand même un bel événement à surveiller ce soir.
C'est un repêchage de joueurs de ligne offensive, justement, donc beaucoup moins spectaculaire, mais très utile pour les formations. Je souhaite que mes Giants, qui repêchent deux fois dans les 10 premiers, récupèrent un joueur de ligne offensive, justement. Faut protéger Jackson Dart.
Il y en a besoin.
Yes! Alex Laramé, on se reparle demain entre 12h30 et 13h parce qu'on va faire un prélude au match canadien Lightning.
Yes, toujours un plaisir.
Cool, salut Alex. C'est déjà tout pour nous à l'émission On en jase. Pascal Cévé, je te souhaite une excellente fin d'après-midi.
À toi aussi, à
tout le retour de Denis Saint-Denis avec Audrey, Véro et Nathan Meilleur suit à l'instant même. Merci d'être à l'écoute de Boulevard 101, guys. Bye-bye.